18h-20h, Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 18-20 un peu particulier avec une France qui manifeste dans le calme et la ville de Paris qui laisse voir des scènes de chaos. Au menu de ce samedi, 2 heures d'information avec du sport, notamment la Ligue 1, une page média avec M6 qui fait revivre l'affaire Dupont de Ligonnès avec une thèse qui fait froid dans le dos et des dossiers. Ce fut relativement calme en province, je l'ai dit, mais la manifestation des Gilets jaunes a une fois de plus dégénéré à Paris à cause des casseurs. Nous serons avec Geneviève Darrieussecq et les secrétaires d'État aux armées et Valérie Lacroute, députée LR de Seine-et-Marne. Et puis, un sujet tabou, les scientifiques ne cessent de nous alarmer sur les catastrophes impliquées par le réchauffement climatique à cause de notre empreinte carbone. Oui, mais cela dépend également du nombre d'humains sur Terre. Et là est le tabou. De rares chercheurs réclament qu'on s'attaque au problème de la natalité, surtout dans les pays en voie de développement. L'un d'entre eux sera dans ce studio. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Les auditeurs d'Europe 1 peuvent bien sûr à tout moment réagir en publiant un commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore sur Europe 1.fr. 18h, bonne fin de journée avec Europe 1. Le journal, Fabienne Lemoelle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal, pardon, ce soir.
De violents incidents depuis ce matin à Paris, concentrés d'abord place de l'Étoile au niveau de l'Arc de Triomphe, mais qui gagnent ce soir d'autres quartiers de la capitale, rue de Rivoli, secteur de la Madeleine. Et déjà 198 interpellations, nous serons place de l'Étoile et nous verrons avec Guillaume Bié comment les forces de l'ordre tentent de gérer ces débordements. Un peu moins de monde mobilisé pour ce troisième samedi. 75 000 manifestants à travers toute la France recensés à 15h contre 81 000 partout il y a une semaine. De nouveau des actions en région et nous irons en Isère où les agriculteurs ont rejoint les Gilets jaunes.
Europe 1. Et pour commencer, direction la place de l'Étoile à Paris.
C'est là que se concentraient depuis ce matin les heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Des heurts qui sont en train de gagner, je vous le disais, d'autres quartiers de la capitale. Place de l'Étoile, on a vu ce matin des gilets jaunes taguer les piliers de l'Arc de Triomphe, d'autres entonner la Marseillaise autour de la tombe du soldat inconnu. Et en début d'après-midi, certains ont réussi à gagner le haut du monument. Pierre Herbulot, vous êtes sur place. Où en est-on ce soir ?
Alors ce soir, Fabienne, la situation est toujours extrêmement tendue, je me répète, depuis ce midi, mais c'est un petit peu le jour sans fin. La place de l'Étoile est toujours remplie de gilets jaunes, la plupart avec un masque ou une écharpe autour de la bouche pour se protéger des gaz lacrymogènes jetés presque sans arrêt par les CRS. Ils sont toujours en formation sur la plupart des avenues qui bordent l'Arc de Triomphe, ce qui laissait penser d'ailleurs que la situation était sous contrôle en début d'après-midi, que seule la place de l'Étoile était occupée, entre guillemets. Force est de constater en marchant dans les rues tout autour que ce n'est pas le cas. On voit des dizaines de carcasses, de voitures incendiées, des barricades érigées, un immeuble particulier en partie saccagé. Une petite voiture sans conducteur a même été poussée par une dizaine de gilets jaunes vers des CRS comme un bélier. Une violence que tous les manifestants savent justifier, même les pacifiques encore majoritaires ici.
Malheureusement, voilà, ça finit en violence parce que mettez les gens au pied du mur et ils finissent par répondre, malgré tous les atouts qu'on peut avoir, la bienveillance et envie de protester pacifiquement, et ben, à un moment ça suffit pas parce que là-haut on a l'impression qu'ils nous prennent pour des idiots. Quoi. Écoutez, ça tourne comme ça tourne, je suis là, je me fais juste brûler les yeux depuis ce matin. J'ai pas balancé de pavé, ça fait 3 semaines que je viens. Moi j'ai pas encore lancé de pavé, j'ai pas l'intention de lancer de pavé. Maintenant, force est de constater que j'en prends plein les yeux quand même. Donc j'ai envie de dire, il faut se révolter, c'est notre droit. Et en mémoire de tous ceux-là qui ne l'ont pas, ce droit est de fait un devoir.
Et une des images qui va rester, c'est l'Arc de Triomphe pris d'assaut, Pierre, vous me disiez, par les manifestants.
Oui, absolument. L'Arc de Triomphe, c'est le point de ralliement de cette manifestation avec maintenant ces tags écrits en noir sur le monument. Macron démission ou encore les gilets jaunes triompheront. Des dizaines d'entre eux ont réussi à se hisser, vous le disiez, en haut du bâtiment où ils font flotter des drapeaux français encore à l'heure où l'on se parle. Plus tôt dans la journée, c'est au pied de cet Arc de Triomphe qu'une scène saisissante s'est déroulée. Des gilets jaunes à genoux devant la tombe du soldat inconnu en train de chanter la Marseillaise. C'est là aussi que quelques minutes après, les CRS se sont servis de leur matraque pour la première fois, sous mes yeux en tout cas, une réponse à une charge des manifestants. En bref, la semaine dernière, le symbole, c'était les Champs-Élysées. Aujourd'hui, c'est clairement l'Arc de Triomphe et les manifestants en ont bien conscience.
Pierre Herbulot, aux abords de la place de l'Étoile à Paris. Vous parliez de cette image, Pierre, avec ces tags sur les piliers de l'Arc de Triomphe. On écoute la réaction du Premier ministre Édouard Philippe.
Je veux dire combien j'ai été choqué par la mise en cause de symboles qui sont les symboles de la France. Le fait que l'Arc de Triomphe ait été tagué, le fait qu'autour du tombeau du soldat inconnu, une manifestation violente puisse avoir lieu. Je ne me satisfais pas de ces images, elles me choquent, et je veux dire que dans le respect de la loi, nous sommes déterminés à faire en sorte que ces manifestations puissent être pacifiques et que rien ne soit excusé à ceux qui ne viennent sur place que dans la seule volonté de casser.
Le Premier ministre Édouard Philippe qui était à la préfecture de police en début d'après-midi.
Et je précise que nous serons dans un instant en direct avec Geneviève Darrieussecq, elle est secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.
Alors après les violents incidents de la semaine passée, la mobilisation des forces de l'ordre était maximale dans la capitale. 5000 hommes mobilisés, 2000 de plus que samedi dernier. Ce soir on compte déjà 205 interpellations et je vous le disais, des violents incidents qui semblent gagner d'autres secteurs de la capitale. Avec nous en studio Guillaume Billet du service police-justice d'Europe. On vient d'entendre, Guillaume, le reportage de Pierre Herbulot autour de l'Arc de Triomphe. On a besoin de comprendre pourquoi les forces de l'ordre ne peuvent pas contenir les débordements qu'on est en train de voir dans Paris, alors que les effectifs sont presque doubles par rapport à samedi dernier.
Ce qui est clair, c'est que le dispositif des forces de l'ordre a été largement débordé. La préfecture de police avait décidé de boucler, de sanctuariser un large périmètre autour des Champs-Élysées et des institutions. Ce dispositif, disons-le, a été efficace, puisque les manifestants violents, les casseurs, n'ont pas réussi à entrer dans ce périmètre. Du coup, ils se sont retrouvés regroupés place de l'Étoile autour de l'Arc de Triomphe qui, lui, n'était pas inclus dans le périmètre protégé. Pourquoi ? Eh bien parce que les forces de l'ordre tenaient déjà une zone qui fait, rendez-vous compte, plus de 3 km². La place de l'Étoile, elle est immense. Il y a 12 avenues autour et des dizaines de rues adjacentes. Il aurait fallu des centaines d'hommes supplémentaires. Et quand bien même les CRS et gendarmes mobiles avaient réussi à repousser les casseurs à la mi-journée qui se sont rabattus sur les artères chics du 16e arrondissement, l'avenue Foch, l'avenue Kléber qui subit toujours actuellement un pillage en règle, voitures incendiées, magasins attaqués. Les forces de l'ordre ont le plus grand mal à reprendre la main, à assurer aussi la sécurité des pompiers qui se font caillasser quand ils veulent éteindre les incendies. Et vous l'avez dit, les violences s'éparpillent avec des incidents rue de Rivoli, aux Tuileries, vers le boulevard Haussmann, la Madeleine, près des grands magasins, derrière la place Vendôme également où une voiture de police a été incendiée. La situation est très compliquée, loin de s'apaiser. Une réunion de crise a commencé il y a une heure au ministère de l'Intérieur. Rien ne filtre pour l'instant. Dernier bilan, 205 interpellations et 92 blessés, dont 14 chez les forces de l'ordre.
Donc voilà pour la situation dans la capitale qui évolue, on le voit de minute en minute. Mais ailleurs, il y a eu aussi des incidents, Guillaume.
Et oui, la plupart des défilés et des mobilisations se sont déroulés sans problème. Mais à Charleville-Mézières, par exemple, les manifestants ont érigé une immense barricade de pneus devant la préfecture. Des jets de projectiles, on compte 6 blessés. Au Puy-en-Velay, ils ont réussi à forcer les grilles de la préfecture et sont entrés dans la cour. Le préfet de Haute-Loire a dû se réfugier dans ses bureaux. Manifestation très tendue également à Avignon, là aussi devant la préfecture.
Merci beaucoup Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1. Dans un instant, nous serons en Isère où des agriculteurs ont rejoint les Gilets jaunes pour manifester.
18h10, la suite du journal. Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
En marge des affrontements parisiens, acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes avec encore des actions en région aujourd'hui.
Et une ambiance beaucoup plus calme qu'à Paris, à Crolles en Isère. Et une particularité, les agriculteurs sont venus se joindre aux Gilets jaunes, des agriculteurs, Rémi Pierre, qui partagent la même colère et les mêmes revendications.
Oui, c'est notamment le cas d'Anthony. Il est venu positionner son tracteur et sa remorque sur le rond-point tenu tous les jours ici depuis le 17 novembre par les Gilets jaunes. Pour ce jeune agriculteur, tout le monde est dans la même galère.
Oui, c'est les mêmes difficultés à finir les fins de mois. C'est toujours plus difficile, toujours plus de taxes, d'impôts. Sans parler de la MSA aussi, que c'est des taxes qu'on paye, c'est énorme avec 3 associés comme on est.
Catherine Fabre, qui possède elle une exploitation céréalière et un élevage de chevaux, passe ici dès qu'elle le peut. Elle ne supporte plus le matraquage fiscal.
Moi, je gagne très mal ma vie comme agricultrice en travaillant beaucoup. Tous mes impôts ont augmenté. Déjà du temps de Hollande, il y a l'impôt sur le revenu. Mais là, avec Macron, la taxe d'habitation, elle a pas disparu chez moi. Les impôts fonciers, c'est mon outil de travail, mais je suis massacrée.
Et au milieu des tracteurs, il y a la relève, Elliot, 16 ans. Il suit un apprentissage en mécanique agricole et lui aussi porte un gilet jaune.
Je suis apprenti, j'ai du travail qui est éloigné à mon domicile. J'ai une moto, j'en ai besoin tous les jours, l'essence me revient cher tous les mois. Par rapport à toutes les taxes que l'État met en place, la goutte fait déborder le vase, quoi.
Des représentants du monde agricole qui sont prêts à revenir sur le terrain si le gouvernement ne répond pas aux revendications.
Rémi Pierre en Isère pour Europe 1, en péage d'Antibes sur la 8. Ce sont des pompiers qui sont venus manifester avec le gilet jaune. Et je vous rappelle donc ce bilan ce soir. 205 interpellations à Paris après les violents incidents qui se concentraient depuis ce matin au niveau de la place de l'Étoile à Paris. Mais les violences qui gagnent du terrain dans la capitale ce soir, nous disait Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1, avec des incidents rue de Rivoli, aux Tuileries, vers le boulevard Haussmann, la Madeleine, près des grands magasins et derrière la place Vendôme, où une voiture de police a été incendiée.
C'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon, le nord sous les parapluies en ce dimanche.
Effectivement Philippe, toute la journée seront arrosées les régions allant des Hauts-de-France au Massif central et de la pointe bretonne à l'Alsace. De bons cumuls de pluie s'annoncent côté Charente, Limousin ou près du Jura. On peut juste espérer une accalmie temporaire sur les régions près de la Manche dans la journée. Sur les Alpes du Nord, attention aux chutes de neige abondantes à partir de 2200 mètres. Des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes du Sud. Là vous êtes protégés, le ciel est un petit peu nuageux mais le temps va rester sec. Les températures sont supérieures aux normales de saison avec des minimales allant de 6 à 13 et des maximales de 11 à 16 degrés en général, toujours 16 à 18 dans le sud-est.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports, c'est avec vous ce soir Simon Rubin. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Et on va commencer par du football. Un match en cours, c'est le choc de cette 15e journée. Lille reçoit Lyon.
Et on file au stade Pierre-Mauroy où Lille reçoit effectivement l'OL. Sébastien Boué, vous êtes sur place et malgré un bon début de match lyonnais, eh bien c'est Lille qui est devant.
Exactement, 54 minutes de jeu, 2-0 pour le LOSC, un score qui ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre. Les Lyonnais dominent les débats, mais les nordistes ont fait preuve de réalisme avec deux buts en contre. Les Lillois, malmenés, bousculés durant le premier quart d'heure, ont réussi à ouvrir le score sur leur première incursion et leur première occasion à la 17e minute. Une reprise de demi-volée de Loïc Rémy et qui inscrit là son premier but sous le maillot lillois cette saison. Et puis, 10 minutes plus tard, Loïc Rémy, encore lui, qui part en contre et délivre un excellent ballon à Nicolas Pépé qui double la mise et qui marque au passage son 9e but de la saison. Ça ne veut pas sourire pour Lyon cet après-midi, qui vient d'ailleurs de rater un pénalty. Memphis Depay a envoyé sa frappe largement au-dessus, c'était il y a 5 minutes. Il reste 35 minutes à jouer dans cette rencontre et pour l'instant c'est bien parti pour Lille qui mène 2-0 face à Lyon.
Sébastien Boé en direct et puis ce soir sur Europe 1 vous pourrez suivre évidemment Angers-Caen, Nîmes, Amiens, Guingamp, Nice et Monaco-Montpellier. C'est avec Lionel Rousseau, tous ces matchs à 20h.
On passe maintenant au rugby, la 11e journée du top 14.
Et cet après-midi, Clermont s'est imposé 28-23 à Montpellier. Et puis l'affiche attendue ce soir, c'est Toulon-Grenoble, le RCT en mauvaise posture et qui doit se relancer. Marie Guida.
Après 10 journées, les Varois pointent aujourd'hui à la 12e place au classement. Mais le plus inquiétant, c'est que le RCT compte maintenant 14 points de retard sur Castres 6e. La place de qualification pour les play-offs semble déjà hors d'atteinte. Toulon, qui a l'un des budgets les plus importants du top 14, n'arrive pas à se stabiliser ces dernières années. 17 changements dans l'effectif cet été, un nouvel entraîneur, le 3e en seulement 3 ans. Voilà peut-être les raisons qui peuvent expliquer ce naufrage. Alors pour ce match de bas de tableau contre Grenoble, l'entraîneur Patrice Collazo pourra compter sur le retour de ses joueurs internationaux comme Guillaume Guirado ou Mathieu Bastaro, capitaine et titulaire ce soir.
Marie Guida et puis dans les autres rencontres qui viennent de débuter, La Rochelle mène 3-0 face au Racing après 10 minutes de jeu, 0-0 entre Lyon et Pau et entre Castres et Agen.
C'était le journal des sports, merci beaucoup Simon Rubin, on vous retrouve tout à l'heure.
Europe 1.
Vous l'avez entendu dans le journal de Fabienne Lemoal, les gilets jaunes n'en finissent pas et surtout les casseurs. La tombe du soldat inconnu a été sinon profanée, du moins malmenée. Et il y a des incendies un peu partout dans Paris. Nous serons avec Geneviève Darrieussecq, et les secrétaires d'État aux armées, et Valérie Lecroux, députée LR, les Républicains, de Seine-et-Marne. Elle était hier dans sa circonscription en gilet jaune. A tout de suite.
Il est 18h19, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1. Nous sommes avec Philippe Vandel et avec vous Philippe, on va bien sûr continuer à parler des gilets jaunes.
Évidemment, ce fut relativement calme en province, on l'a dit, mais la manifestation des gilets jaunes a plus que dégénéré à Paris à cause des casseurs, il faut le préciser, des scènes de chaos en pleine ville, pas seulement sur les Champs-Élysées, mais un peu partout. Près de 3000 casseurs dénombrés selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, près de 200 interpellations. Bonsoir Valérie Lacroute.
Bonsoir Philippe Vandel.
Vous êtes député Les Républicains de Seine-et-Marne. Comment jugez-vous ce qui s'est déroulé aux alentours de la place de l'Étoile cet après-midi, et ce qui se déroule actuellement dans Paris?
C'est totalement inacceptable, et vous l'avez souligné tout à l'heure, totalement inacceptable, d'autant plus qu'on ne retrouve pas les gilets jaunes dans ces casseurs. Et c'est bien là où il faut faire la différence et la situation devient dramatique, puisque moi j'étais en circonscription encore ce matin à Nemours et Fontainebleau, et les Gilets jaunes ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Ils sont là, ils revendiquent leur colère en matière de pouvoir d'achat. Et là, ce que l'on voit sur les images à Paris, on voit qu'on a affaire à des casseurs, à des professionnels qui s'en prennent aux objets publics, à l'espace public, aux forces de l'ordre, qui sont sur le terrain depuis ce matin 8h et qui vivent une situation totalement dramatique. Donc on en reparlera, mais il faut que le président de la République réagisse. On ne peut pas laisser cette situation telle qu'elle.
Bonsoir Geneviève Darrieussecq.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État aux armées, notamment en charge des anciens combattants, mais pas seulement. Que vous inspire cette vision, je vais commencer par ça, de la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, sinon profanée, du moins souillée?
Je suis profondément choquée, très en colère. J'ai mal à mon pays, hein, parce que c'est un lieu sacré, c'est un lieu symbolique de la nation, où tous les jours, il est rendu hommage aux hommes et aux femmes qui se sont battus pour elle. C'est un lieu symbolique aussi d'unité de la nation, et je crois vraiment que ces exactions sont absolument inadmissibles.
La manifestation ne semble pas se calmer. Si les compagnies de CRS et de gendarmes mobiles sont débordées, je m'adresse à la secrétaire d'État aux armées que vous êtes, pourrait-on décider d'envoyer l'armée en renfort ?
À l'heure actuelle, c'est un sujet qui concerne la police, les services de sécurité intérieure, et je crois que tout est mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et par Christophe Castaner pour tenter de répondre de la façon la plus adaptée à la situation avec les moyens qui sont déployés, les moyens importants.
Vous voulez dire par là qu'à votre connaissance, les forces de police et de gendarmerie ne sont pas débordées ?
À ma connaissance, les forces de gendarmerie et de police tentent faire régner, pas la sécurité, parce qu'effectivement les choses sont difficiles. Ce qui est complexe pour eux, je pense, c'est effectivement la dispersion, la multiplication des lieux où se passent les problèmes. Mais je crois qu'il faut que nous restions, bien sûr, pour l'instant, sur ces forces. Et je veux vraiment saluer nos forces de l'ordre qui ont un courage énorme aujourd'hui et qui doivent être particulièrement épuisées.
Une image qui a frappé beaucoup de gens, la loi interdit aux manifestants d'être masqués. C'est 1 500 € d'amende, 3 000 en cas de récidive. Pourquoi tous ces gens qu'on voit masqués ne sont pas arrêtés par les forces de l'ordre? Est-ce que c'est un choix de votre part pour ne pas envenimer les choses ou parce que vous n'en avez pas les moyens?
Écoutez, quand vous voyez des centaines de personnes masquées devant vous, l'application de la loi devient peut-être difficile à mettre en œuvre. Il faut imaginer un petit peu la situation. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des casseurs de République que nous avons devant nous, des personnes qui veulent déstabiliser le pays, qui veulent le chaos. J'en fais la différence, une complète différence, et je suis en parfait accord avec Madame la députée qui a parlé auparavant, avec les Gilets jaunes sincères, qui sont en difficulté, qui vivent des difficultés depuis de nombreuses années et qui les expriment maintenant. Et c'est à eux que nous devons apporter des solutions et c'est à tous les Français que nous devons parler. Mais tout ce qui se passe actuellement avec ces casseurs professionnels, ces casseurs de République, c'est absolument inadmissible. Et je souhaite vraiment que les Français se rendent compte de cette différence importante entre ces deux situations.
Merci beaucoup Geneviève Darrieussecq d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État aux armées. Valérie Lacroute, je me tourne vers vous. Hier vendredi, vous étiez dans votre circonscription, vous êtes montée à l'arrière d'un camion vêtu d'un gilet jaune. Vous êtes adressée d'ailleurs à une trentaine de gilets jaunes. Pourquoi cette tenue et pour leur dire quoi?
Alors c'était même vendredi dernier, vous voyez, c'était même pas hier. Pour leur dire quoi? Pour leur expliquer, pour leur apporter un soutien, parce que je comprends leur colère et leur détresse. Moi, j'ai des administrés dans ma circonscription, même si on pourrait imaginer que c'est une circonscription qui vit plutôt bien. Quand on entend le nom de Fontainebleau, c'est vrai qu'on se dit que c'est une circonscription qui a une notoriété internationale.
L'opulence, le château.
Mais malheureusement, dans la circonscription, nous avons des gens qui sont en difficulté tous les jours, qui ont du mal à boucler les fins de mois. J'avais une retraitée, vous voyez, ce matin, de l'éducation nationale. Après 45 ans dans l'éducation nationale, son montant de retraite est de 1 000 € par mois.
En fait, je veux dire, le sens de ma question, madame la députée, c'est que est-ce que le rôle d'un parlementaire n'est pas plutôt de s'exprimer dans le cadre d'une assemblée plutôt que dans la rue?
Ah bah c'est les deux. Voilà, vous m'avez posé la bonne question. C'est qu'effectivement, on a une partie de notre activité qui se joue, entre guillemets, dans l'hémicycle quand on défend les lois et quand on dépose des amendements. Et puis l'autre partie de notre travail, et d'ailleurs c'est ce que parfois les Français nous reprochent, c'est d'être au plus près du terrain pour justement pouvoir mesurer la difficulté des Français et remonter ensuite à l'Assemblée nationale cette difficulté qu'ont les Français à vivre et qu'on puisse amender et corriger et proposer des lois qui soient en accord avec ce que vivent les Français.
Hier, le Premier ministre Édouard Philippe avait invité à Matignon 8 représentants des Gilets jaunes. Seulement 2 sont venus. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, ça m'inspire que le Premier ministre a un réel mépris pour la classe politique et pour les parlementaires. Je le dis très clairement, vous allez comprendre, les députés ont été élus par les Français. Les députés sont la courroie de transmission entre les Français et le gouvernement. L'ensemble des groupes d'opposition politique ont, depuis le début de cette crise, demandé au gouvernement à pouvoir se mettre autour d'une table et discuter. Nous le faisons d'ailleurs tous les jours dans l'hémicycle. Certain nombre de nos amendements n'ont pas été validés, n'ont pas été votés par la majorité La République En Marche. Et donc l'objectif, c'est au-delà de ce travail dans l'hémicycle, c'est de pouvoir aussi discuter avec le Premier ministre. Il a préféré, et nous sommes la courroie de transmission.
Il a préféré parler avec eux, mais seulement 2 sont venus sur les 8 invités. C'était ça le sens de ma question.
Oui, tout à fait, mais parce que je pense que les Gilets jaunes ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que c'était une discussion
attendez, je vous arrête. Ils ont eu des menaces de mort vraiment extrêmement précises, et certains ont eu peur. C'était de ça dont je voulais parler, de la représentativité.
Pardon. Oui, la représentativité des Gilets jaunes.
Ouais. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus, ils ont eu peur. Il y en a un notamment qui a eu peur et un qui a refusé d'être filmé.
Oui, mais une dépression de qui ?
Dépression d'autres Gilets jaunes.
D'autres Gilets jaunes. Alors, c'est bien là, et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous sommes, les politiques, nous sommes entre guillemets structurés et nous sommes là pour être entre guillemets les porte-parole des Français dans l'hémicycle, les Gilets jaunes, et on voit bien leurs difficultés à s'organiser. Et donc, sans faire de récupération politique, l'idée, c'est qu'on puisse, nous aussi, accompagner les réformes qui sont nécessaires pour le pays.
Vaste sujet. Merci beaucoup, Valérie Lacroute, députée Les Républicains de Seine-et-Marne, d'être venue nous voir en direct sur Europe 1. Et dans quelques instants, un sujet tabou. Les scientifiques comme le GIEC ne cessent de nous alarmer sur les catastrophes impliquées par le réchauffement climatique à cause de notre empreinte carbone. Oui, mais cela dépend également du nombre d'humains sur Terre. De rares chercheurs réclament qu'on s'attaque au problème de la natalité, surtout dans les pays en voie de développement. C'est là qu'est le tabou. Parmi eux, Jean-Louis Berthaud, il est auteur du livre « Démocratie, climat et migration, l'état d'urgence ». Il sera avec nous juste après ça.
Il est 18h30 et vous écoutez Philippe Bandel jusqu'à 20h sur Europe 1.
Et le rappel des titres, c'est avec vous Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Violences urbaines, véhicules incendiés, plusieurs points d'affrontement avec les forces de l'ordre. La troisième journée de mobilisation des Gilets jaunes donne lieu à des scènes de chaos dans Paris. L'Arc de Triomphe a été tagué, des heurts ont éclaté aux abords de la tombe du soldat inconnu. Édouard Philippe s'est dit choqué que les manifestants s'en prennent au symbole de la France. À la mi-journée, 5500 personnes étaient recensées dans la capitale. 224 ont été interpellées, 92 blessés, parmi lesquels 14 membres des forces de l'ordre. Selon un dernier point du ministère de l'Intérieur, 75 000 gilets jaunes se sont mobilisés à travers la France aujourd'hui. Des rassemblements qui ont été pour la plupart pacifiques, même si quelques incidents ont éclaté également en région. Christophe Castaner sera l'invité du journal de 20h sur TF1. Ce soir. La mort de Maria Pacaume, la comédienne connue pour ses rôles de bourgeoise exubérante, avec 94 ans. Et puis des obsèques nationales pour George Bush père, annonce de la Maison Blanche. L'ancien président américain de 89 à 93 s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 94 ans. Mercredi prochain sera jour de deuil national aux États-Unis.
Merci beaucoup Sophie, à tout à l'heure pour votre grand journal complet à 19h.
Augmentez votre confort. Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous évidemment Valérie Darmon. Demain, le parapluie est indispensable.
Tout à fait, et dès le matin, il va pleuvoir sur quasiment toute la France. Attention au vent aussi qui souffle assez fort avec des rafales à 70-80 km/h. Et l'après-midi, ce mauvais temps va se maintenir sur les trois quarts du pays avec des pluies soutenues, surtout si vous habitez Bordeaux, Saintes ou Limoges. Ce mauvais temps n'épargne que les régions méditerranéennes où là, vous profiterez de belles éclaircies. En perspective aussi de fortes chutes de neige au-dessus de 2000 mètres en Savoie et en Haute-Savoie. Avec un vent orienté au sud-ouest, c'est la bonne nouvelle. La douceur résiste bien. Vos thermomètres affichent entre 9 et 15 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 14 et 18 avec des pointes à 20 degrés en Roussillon. Une douceur printanière digne d'un début de mois de mai.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
18h32, vous êtes bien sur Europe 1 et votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Vandel, et votre invité.
Oui, et avec un sujet tabou, les scientifiques comme le GIEC ne cessent de nous alarmer sur les catastrophes impliquées par le réchauffement climatique. La loi sur la transition énergétique, pour ne parler que d'elle, vise à réduire la pollution, notamment notre empreinte carbone. Sauf que le grand absent de ces discussions est le nombre d'humains sur Terre, à cause de l'empreinte carbone laissée par chacun et du nombre de déchets. De rares chercheurs réclament qu'on s'attaque au problème de la natalité, surtout dans les pays en voie de développement. Bonsoir Jean-Louis Berthaud.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, auteur du livre « Démographie, climat, migration, l'état d'urgence ». Je vais commencer par ce chiffre ahurissant, la croissance exponentielle de la population mondiale. Entre 1950 et 2017, elle est passée de 2 milliards à près de 8 milliards. Elle a été multipliée par 4. Nous sommes désormais 6 milliards d'êtres humains de plus que dans les années 50. Quelles conséquences en termes d'environnement pour la planète ?
Eh bien, je dirais qu'il y a quand même deux sortes de conséquences. L'une, qu'on comprend bien, c'est l'influence sur le climat, c'est-à-dire que plus on est nombreux, plus on émet du CO2, plus ce dioxyde de carbone est produit, ça fait de l'effet de serre, donc la Terre se réchauffe inéluctablement parce qu'on brûle nos combustibles fossiles. Mais l'autre aspect néfaste de la démographie galopante, c'est toute l'atteinte à la biodiversité. Actuellement, on est en train d'assister à la sixième extinction massive. WWF nous dit que pour les vertébrés, c'est-à-dire les êtres non humains, ni les chevaux, ni les vaches, il y a 60% des vertébrés qui sont morts depuis 44 ans, qui ont disparu. Et aussi les oiseaux en France, par exemple, 30% de moins d'oiseaux depuis 20 ans.
Il n'y a pas 30% d'oiseaux en moins parce que la population française s'est accrue.
Non, mais on est obligé de les nourrir, tous ces Français, et l'agriculture utilise des pesticides, et donc ces pesticides tuent les oiseaux.
D'accord, mais le problème vient des pesticides et non pas de la surpopulation, contrairement au CO2. Alors, tous les continents sont concernés par la natalité et même la surnatalité, mais vous ciblez d'abord l'Afrique. Pour quelle raison ?
Eh bien, il suffit de regarder, disons, une carte du monde du taux de fécondité et vous apercevez que c'est franchement en Afrique que tous les voyants sont au rouge. Le Nigeria était à 7 enfants par femme, c'est quelque chose d'hallucinant. Et donc, on voit bien que, d'ailleurs, les courbes de fécondité montrent qu'ils sont actuellement à 4,5 enfants par femme en moyenne. Et alors là, il faut saluer quand même une prise de conscience de la charte de Ouagadougou, où il y a 17 pays africains qui ont dit, eh bien, avec ça, on va droit dans le mur, parce que ça, c'est mauvais pour notre développement économique. Donc, il faut qu'on descende à moins de 3 enfants par femme en 2030.
Oui, parce que c'est un sujet tabou, jusqu'à une date récente. Et encore aujourd'hui, quand on dit qu'en Afrique, il y a trop de naissances, on se fait taxer de raciste. Et j'allais vous demander ça, comment sortir de ce piège ?
Eh bien, justement, je pense que ces gens très courageux de Ouagadougou nous montrent le chemin à suivre. Et il faut absolument saisir cette opportunité. Et donc, nous proposons qu'en fait, on finance ces programmes de planning familial dans ces pays-là, grâce d'ailleurs à de l'argent qui est plus ou moins déjà décidé. C'est l'argent que les pays riches ont promis aux pays pauvres lors de la COP21.
D'accord. 100 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique. Et vous dites que ça inclut cette lutte contre la surnatalité, fait partie de ce combat. Dans les pays arabes, on observe que les femmes étaient nombreuses à faire des enfants jusqu'à avoir un garçon. Il y a aussi la tradition religieuse, et même jusqu'ici, croissait et multipliait. Moi, je me souviens du pape qui mettait à l'index, si j'ose dire, le préservatif, l'avortement. Comment lutter contre les tabous religieux ?
Eh bien, l'Église catholique, effectivement, est dans une position délicate. On peut difficilement dire... Ils ont toujours été contre la contraception. On peut difficilement dire que ça n'a eu aucun effet. Mais il y a une petite lueur d'espoir, c'est que dans une encyclique du pape, qui est un scientifique, hein, il est docteur en chimie, il dit à un moment, certains pays conditionnent leur aide économique à l'implantation d'un programme de natalité décroissante. Ça s'appelle la santé. santé reproductive.
Je reste en France, mais pas dans la métropole. Dans les territoires d'outre-mer, certains parlent même d'allocations braguettes. Qu'est-ce que c'est ? Vous contestez la manière dont sont faites les allocations familiales.
Eh bien, je viens de voir qu'effectivement, il y a beaucoup d'allocations familiales, mais en France, c'est zéro pour le premier, 130 euros pour le deuxième et 160 euros pour tous les autres. Mais dans les territoires d'outre-mer, ça démarre à 130 euros déjà, dès le premier. Il y a déjà une différence.
Et vous dites qu'il y a des gens qui font des enfants pour toucher les allocations.
Absolument.
Et qu'il faudrait faire, si je vous suis, la chose à l'envers, c'est donner les allocations dès le premier et ensuite les réduire.
Exactement, vous avez tout à fait compris.
J'ai compris votre propos. Merci beaucoup Jean-Louis Berthaud. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, auteur du livre Démographie, Climat, Migration, l'état d'urgence.
Europe 1.
L'affaire Dupont de Ligonnès, le fait divers le plus intrigant de la décennie, c'est cette famille de Nantes. La mère et quatre enfants tués par balle et enterrés dans le jardin de leur maison. Le père Xavier Dupont de Ligonnès a disparu et M6 le fait revivre dans une soirée spéciale portée par Nathalie Renoux. Elle sera mon invitée dans quelques instants et sa thèse fait froid dans le dos. A tout de suite.
Tous les week-ends de 18h à 20h, nous sommes avec Philippe Vandel pour votre grand journal du soir. Il est 18h40, l'heure de l'infomédia.
C'est le fait divers le plus intrigant de la décennie. Une famille trucidée, les corps de quatre enfants et de leur mère tués par balle, enterrés dans le jardin d'une maison bourgeoise de Nantes. Le père Xavier Dupont de Ligonnès a disparu. Tout porte à croire qu'il est l'auteur de ce quintuple meurtre, mais rien n'a encore été prouvé. C'était en avril 2011. Aujourd'hui encore, on ignore s'il est mort ou vivant, caché quelque part. Bonsoir Nathalie Renoux.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste sur M6, vous présentez le 19h45, mais lundi, ce lundi, vous présentez une soirée spéciale autour de Xavier Dupont de Ligonnès. Ça s'appelle « Dans la tête du suspect ». Avant de parler du débat que vous animerez, d'abord un mot du long docu-fiction absolument passionnant, je peux me permettre de le dire, diffusé à 21h. Qu'est-ce qu'on voit dans ce programme ?
Eh bien déjà, je vais vous dire ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas une enquête journalistique sur un fait divers. On voit une fiction. On est avec Xavier Dupont de Ligonnès et on essaye de comprendre avec lui pourquoi il est passé à l'acte.
Alors, il y a une sorte de thèse, je voudrais vous la faire entendre. Le décor est planté, il y a un homme, chauve, qui s'adresse à la caméra. C'est dans un décor assez neutre, on croirait reconnaître une chambre d'hôtel à bas prix. Écoutez.
Je m'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai disparu le 15 avril 2011. Vous avez entendu beaucoup de choses sur moi, sur mon histoire. Je vais vous raconter ce que j'ai fait, ce qui s'est vraiment passé. Ça pourra servir si quelqu'un me retrouve un jour.
La thèse, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès, sinon est toujours vivant, n'a pas disparu tout de suite. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça ?
On vous laisse mettre dans la tête du suspect. On a fait une enquête journalistique très fouillée pour arriver à ce résultat. Et tout porte à croire que c'est lui qui est passé à l'acte. Donc on s'est dit, mais pourquoi ? Pourquoi ce bon père de famille, il va comme ça tuer ses enfants, sa femme ? Et on s'est dit, le mieux, c'est d'essayer de se mettre à sa place. Et il fallait qu'il raconte ce récit-là. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on le voit chauve dans ce que vous décrivez comme probablement une chambre d'hôtel à bas prix. Et ça s'avère être le cas. Et il raconte son histoire.
Alors comment vous avez travaillé, raconter la construction du film ? Parce que ça aussi, c'est très original.
C'est un aller-retour entre d'abord ce moment de récit lorsque Xavier Dupont de Ligonnès est chauve et qu'il raconte ce qu'il a fait, des flashbacks puisqu'on le voit vivre avec sa famille, ses enfants, ça c'est toutes les parties de fiction.
Avec des comédiens ?
Exactement, on a notamment Errico Salomon qui est un comédien belge qui incarne, je trouve merveilleusement, Xavier Dupont de Ligonnès avec beaucoup de justesse. Et puis pour appuyer, si vous voulez, cette partie fictionnée, on a des petites incursions de réalité avec des témoins de l'affaire qui viennent parler et qui viennent accréditer aussi ce qui se passe dans la fiction.
Des vrais témoins, des vrais amis, comme par exemple Bruno de Stabenrath qu'on connaît, qui est ce comédien en fauteuil roulant et qui est le pote d'enfance de Xavier Dupont-Ligonnès.
Exactement.
Et pour qui, lui, Xavier est encore vivant.
Exactement.
Parce que tout le monde ne pense pas ça.
Tout le monde ne pense pas ça, mais ça, c'est sa théorie. On a aussi la voisine des Dupont de Ligonnès.
Ah, la voisine, elle est absolument incroyable. Alors, c'est d'autant plus drôle que la voisine, elle apparaît deux fois. Elle apparaît en vrai, et puis elle apparaît jouée par une comédienne.
C'est exactement là où je voulais en venir. C'est qu'on la voit en train de jouer, donc on la voit dialoguer avec Xavier Dupont de Ligonnès dans la fiction, et puis d'un coup, on la voit en réalité.
Et dans la réalité, elle dit ce truc qui m'a glacé le sang. Elle dit « Il était très sympathique, très gentil, très serviable. » Mais je n'ai jamais voulu prendre un café avec lui, comme si elle se doutait de quelque chose ou alors sont des souvenirs reconstitués. Vous avez tourné dans la vraie maison ? Le jardin, c'est le vrai jardin, non ?
Non, non, non. Tout est, enfin, en tout cas, tout ce qui est fiction est fictionné.
Mais il y a plein de choses vraies. Par exemple, le fait que les enfants, les membres de la famille soient dans des sacs plastiques noirs avec des figurines religieuses à la main, vous ne l'avez pas inventé.
Non, non, tout ça, c'est vrai. Le fait que la jeune fille Anne, la fille des Dupont-Ligonnès, voulait aller au JMJ, c'est vrai. Enfin, tout est étayé par une enquête journalistique préalable. Mais le film en lui-même n'est pas une enquête journalistique. C'est une théorie. On a lancé une hypothèse. Voilà, s'il a commis ces meurtres, ce que l'enquête porte à croire, comment il est passé à l'acte ?
On découvre les rapports ambivalents du suspect Xavier avec son père. À la mort du père, Xavier rapporte des choses dans son domicile et pas n'importe quoi.
Bah, la carabine.
Il a rapporté la carabine, vous l'avez dit. Il a pris des cours de tir dans un stand où il a même emmené ses enfants.
Oui, il a emmené ses enfants dans un stand de tir pour faire du tir avec eux, avec cette fameuse carabine avec laquelle il va les tuer.
Alors, il y a une thèse à la fin sur l'endroit où il se trouve. Je ne vais évidemment pas la révéler, mais je vous pose la question. Est-ce que vous y croyez ?
Je ne sais pas si j'y crois spécifiquement, je trouve que cette fin est très symbolique. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, sans rien révéler, c'est que les enquêteurs ont creusé cette piste-là aussi.
Et sans rien dévoiler, je peux vous dire que c'est assez incroyable. On se dit, oui, c'est peut-être ça qui s'est passé. Alors ensuite, Nathalie Renaud, à 22h50, après la diffusion du docu-fiction, vous allez prendre le relais avec l'émission « Affaire Xavier Dupont de Ligonnès, les zones d'ombre ». Qui recevrez-vous et pour dire quoi ? Qu'est-ce que vous allez dire qui ne pouvait pas être montré dans le docu-fiction ?
Alors, nous recevrons Estelle Chapon, la voisine, qui sera à nouveau là sur le plateau. Thibaut Res, qui est un journaliste expert de cette affaire. Le professeur Zaguri, qui est psychiatre auprès des tribunaux, c'est un des pontes en France. Et nous recevrons surtout le maître Goldenstein, qui est le défenseur, l'avocat de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, à savoir sa mère et sa sœur, qui, elles, ne croient pas à la culpabilité de Xavier Dupont de Ligonnès.
Ah, c'est même pas qu'elle croit pas à sa mort, c'est qu'elle ne croit pas à sa culpabilité.
Elle ne croit pas à sa culpabilité.
Donc elle pense que quelqu'un d'autre a tué la femme et les quatre enfants.
Oui.
Waouh, c'est passionnant ça.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fascine le plus, Nathalie Renaud, dans cette histoire ?
C'est l'aspect psychologique de l'affaire. De toute façon, dans les faits divers, ce qui me passionne, c'est surtout ça. C'est ce qui conduit les gens à choisir la solution extrême. Et en l'occurrence, c'est incroyable, parce qu'il a une famille... Une belle famille, il a quatre enfants, il a une femme. Bon, alors, il y a des trucs qui ne vont pas, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a un passage à l'acte. Mais pourquoi aller choisir cette folie ? Il y avait sûrement d'autres solutions pour s'en sortir.
Merci beaucoup, Nathalie Renaud, d'être venue nous voir. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous présentez le 12h45, le vendredi, le samedi, le dimanche sur M6.
Et le 19h45.
Et ce lundi, vous serez autour de Xavier Dupont de Ligonnès pour une soirée spéciale sur M6 à 21h, puis à 22h30 pour le débat.
Exactement, merci beaucoup.
C'est bientôt l'heure de l'apéro et dans quelques instants, ce sera justement notre planche apéro et on pourra même se faire un plateau télé car il viendra juste après le replay TV d'Eva Rock. A tout de suite.
Il est 18h49, vous écoutez votre grand journal du soir et on va rester dans les médias avec vous Philippe Vandel.
Bonsoir Eva Rock.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors comme chaque semaine, vous nous offrez une séance de rattrapage avec la sélection de 3 programmes diffusés à la télévision cette semaine. 3 programmes toujours disponibles sur les sites internet des chaînes. Quel est le menu ce soir ?
2 séries et un documentaire. Est-ce que vous aviez regardé la série danoise Borgen qui avait été diffusée notamment sur Arte ?
Il paraît que c'était tellement génial que je m'en étais empêché pour ne pas perdre trop de temps.
Mais vous avez raison parce que dès que vous allez commencer, vous n'allez plus pouvoir arrêter.
On m'a dit.
Eh bien son créateur, Adam Price, est le papa d'une nouvelle fiction dont les premiers épisodes étaient diffusés jeudi, toujours sur Arte. Ça s'appelle Au nom du père, l'histoire d'une famille dans laquelle on est pasteur de père en fils. Mais quand le doute s'immisce dans la réflexion religieuse, eh bien le destin de ces hommes et de leurs proches en sont évidemment bouleversés. Alors Adam Price a eu l'idée de ce scénario quand il a découvert au cours d'un reportage que les Danois votaient pour des ecclésiastiques. Il y a une dimension politique en fait à la religion au Danemark. Cela lui permet alors d'imaginer des personnages complexes comme Johannes, c'est le chef de famille, un homme assez mystérieux.
Mon père est un grand homme. Il est d'une bonne famille, une famille de pasteurs. Et mon père est en colère.
Ne me demande plus jamais rien.
Il a Dieu sur le dos.
Papa, t'es complètement ivre.
Lâche-moi maintenant, petit con.
Ça fait des générations que nous sommes en colère dans la famille.
Dieu, où es-tu ?
C'est une série fascinante, Philippe. Il y est question de religion, de croyances, de politique, mais aussi des relations familiales, sans parler du regard critique qui est porté sur notre société contemporaine. C'est une fiction qui excelle sur le fond, donc, mais aussi sur la forme, grâce à la parfaite réalisation et à l'interprétation. La palme revenant à Lars Mikkelsen, le rôle principal qu'on a déjà vu dans The Killing ou encore House of Cards, et c'est à revoir sur arte.tv.
Tous les épisodes sont dispo ?
Non, pour l'instant, les deux premiers qui étaient diffusés jeudi.
Alors, votre deuxième choix, Eva, de la semaine, se porte sur un documentaire.
Oui, alors ça c'était mardi soir sur France 5, un film intitulé Héroïque. Le réalisateur Guy Baucher a recueilli les témoignages de héros, c'est-à-dire des gens qui ont sauvé la vie des autres lors d'un attentat, d'un tremblement de terre, d'une noyade. Comme Franck Terrier, sur son scooter, il a tenté d'arrêter le terroriste qui, le 14 juillet 2015, faucha les passants présents sur la promenade des Anglais à Nice. Arrivé à sa hauteur, Franck avait sauté sur le camion, asséné plusieurs coups au terroriste, un geste fou que le Niçois a encore du mal à analyser, tout autant que sa vie d'après, qui est très, très compliquée.
Ça commence vraiment à se dégrader. Et je me mets en, on pourrait dire en veille pendant à peu près un mois et demi. J'ai un syndrome crépusculaire, on appelle ça. Et je me souviens de rien.
Ça a l'air passionnant.
C'est passionnant parce que les témoignages d'abord sont extrêmement poignants et puis vient s'ajouter celui d'une chercheuse en neurosciences qui a noté chez ces personnes une prédisposition génétique aux gestes héroïques. Je vous conseille vivement de revoir ce documentaire, c'est sur France.tv.
Et vous également Eva, vous êtes héroïque car vous allez terminer par une série française.
Oui. Pourquoi héroïque ?
Pour vous faire rire, et ça a marché.
Ça a marché, ça a marché. Et alors je dois vous présenter d'abord mes excuses parce que la série dont je vais vous parler a été diffusée sur Canal+, et je sais que la majorité de nos auditeurs ne sont sans doute pas abonnés à la chaîne payante, mais Canal+ a proposé cette semaine une série qui, à mon sens, est la meilleure série française de l'année. Thomas Litley, ancien médecin devenu réalisateur à qui on doit le film Hippocrate au cinéma, a décidé de décliner son œuvre en série avec dans les rôles principaux Louise Bourgoin et Alice Belaïdi. Vous oubliez Urgence, vous oubliez Grey's Anatomy, vous allez découvrir une série médicale où l'humain a toute sa place, où les conditions de travail du personnel soignant sont parfaitement mises en exergue. C'est une série où malgré leurs défauts et parfois leur côté un peu tête à claque, les personnages sont extrêmement attachants. Le téléspectateur oscille entre émotion et sourire, comme dans cet extrait.
Vous consommez combien par jour ?
Bon, je sais pas, ça dépend. Pas des fois le dimanche.
Non, je veux dire depuis que vous êtes ici.
Ici, à l'hôpital ?
Ouais.
Bah zéro.
Vous sentez l'alcool ?
Oh non.
Ah si, si, vous sentez l'alcool.
Oh mais ça, c'est les mon chéri. Il y a de l'eau de vin dedans.
Alors, on en sourit, mais vous verrez, il y a beaucoup d'émotions aussi. Certaines scènes sont déroutantes de réalisme, à se demander parfois s'il ne s'agit pas d'un documentaire. Mais il y a bien sûr une part de romance, parce qu'on est dans une série. Mais même la romance sonne très juste. Coup de foudre donc pour Hippocrate, dans la première saison compte 8 épisodes. C'est à voir et revoir sur mycanal.fr.
Merci beaucoup Eva Rock et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et devant la télé, qu'est-ce qu'on grignote ? C'est la question, Philippe Vandel. C'est l'heure de la planche apéro sur Europe 1.
Bonsoir Olivier Nasty.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes le chef et vous tenez un restaurant 2 étoiles au guide Michelin. C'est le Chambar à Kaisersberg. C'est à côté de Colmar, c'est ça ?
Oui, c'est à 10 km de Colmar, au cœur du vignoble.
Noël arrive, et peut-être aussi les grands froids. Qu'est-ce que vous nous proposez pour l'apéro ?
Un apéro festif, on va dire, entre les Noël qui arrivent et puis les fêtes qui vont avoir lieu. J'ai prévu une neige de foie gras. Alors c'est un foie gras qu'on va râper tout doucement et qui va tomber en flocons. Et on l'accompagnera. À vrai dire, c'est une recette que j'avais imaginée avec l'association avec les Relais Châteaux, excusez-moi,
ouais.
Et les grands chefs. On avait imaginé parler du terroir, et puis moi, je devais donc mettre mon terroir alsacien en avant.
Je précise que vous êtes meilleur ouvrier de France, mais alors, est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire votre recette ? Comment elle se fait ?
Alors, elle se fait très simplement. J'ai utilisé deux choses. Une première chose, le fruit du Beraveca.
Beraveca,
c'est un pain de fruits secs. Voilà, un mélange de pain brioché avec des fruits secs à l'intérieur et on le mange en général l'hiver.
D'accord.
Quand j'en ai fait une petite purée, je l'ai mélangé avec un tout petit peu de crème fraîche, un tiers de purée, 2 tiers de crème fraîche à peine fouettée, très moelleuse, que je mets dans le fond d'un petit verre ou d'un tout petit bol qui nous servira pour l'apéritif. J'ai mis un petit morceau de foie gras d'oie, hein, c'est important. Le foie gras d'oie, c'est un peu traditionnel pour nous en Alsace. Et au congélateur ou en surgélation très rapide, je prends une râpe microplane, c'est-à-dire c'est une râpe qui fait des fins petits copeaux. Et puis je vais venir râper ce foie gras surgelé sur cette petite mousse de fruits du Beraveca.
D'accord.
On appellera ça la neige de foie gras d'oie. Alors c'est un petit peu particulier, le foie gras doit être cru et pas cuit.
Et ça reste surgelé ou peu à peu dans l'assiette, ça revient à température ambiante si j'ose dire?
Alors forcément quand vous allez le râper, ces fins copeaux qui sont microscopiques, enfin qui sont millimétrés, ils décongèlent à une rapidité, à vrai dire une fois que vous l'avez râpé, le foie gras reste froid mais il n'est plus congelé et il ne décongèlera plus. Ce qui est important, c'est de laisser ces copeaux tomber sans les toucher. C'est pour ça qu'on appelle la neige de foie gras d'oie.
D'accord, donc ce n'est pas une recette glacée. Et avec ça, on boit quoi?
Alors forcément, on va venir peut-être sur un Gewürztraminer. Alors, pas trop riche non plus dès le départ du repas, mais un Gewürztraminer bien choisi, c'est plutôt important.
Il faut que ce soit un peu doux avec le foie gras ou est-ce que je dis une bêtise?
Oui, un muscat d'Alsace. On peut aussi prendre un muscat d'Alsace qui, lui, est un peu floral. Donc, ça ira aussi particulièrement bien avec le fruit sec. Quoi.
D'accord. Bah écoutez, vous savez quoi? Ça donne trop, trop faim. Merci beaucoup, Olivier Nasty. Je rappelle que vous êtes le chef du Relais Château Le Chambard. Ça se trouve à Kaisersberg. Et j'ose vous dire, avec de l'avance, joyeux Saint-Nicolas.
Merci beaucoup et bonne fête à tous. À bientôt.
On n'est pas encore aux fêtes. En tout cas, ça va être une fête. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de Sophie Tussaud. À tout de suite sur Europe 1.
18h-20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Et une bonne nouvelle, l'ONU Sida vise la fin de l'épidémie mondiale en 2030, c'est seulement dans 12 ans. Tandis que les autorités françaises mettent l'accent sur le dépistage nécessaire des plus de 50 ans. Et où en est le vaccin? Willy Rosenbaum, co-découvreur du virus du sida, sera avec nous à 19h15. Et puis ne manquez pas notre demi-heure culturelle. Diane Chénouda va nous parler du cubisme, Nicolas Caro de l'amant de sa femme, je vous jure que c'est vrai. Et Vanessa Zah s'est penchée sur un art qui vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, le reggae de Jamaïque. Et avec nous, une sorte de génie, Alexandre Astier, comédien, metteur en scène, créateur de la série Kaamelott. Il a co-réalisé le nouvel Astérix qui sort mercredi dans toutes les salles de cinéma. Vous avez bien fait d'avoir choisi Europe 1.
Mais je dirais même plus, vous avez bien fait d'avoir choisi le hashtag Europe 1 pour commenter l'actualité. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir. Merci de nous avoir choisis. Il est 19h. Bon week-end avec Europe 1. Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Des scènes d'une rare violence au sein même de la capitale. La mobilisation parisienne des gilets jaunes vire au chaos. Nous serons avec nos reporters sur place. Moins de manifestants, mais plus d'affrontements et d'arrestations. Nous ferons point sur le bilan à Paris et en région de cette journée de contestation. Parmi les gilets jaunes, des manifestants pacifiques et par peur des affrontements, ils ont préféré défiler avec la CGT. Et puis également dans l'actualité, la disparition d'une figure de la comédie française, l'exubérante Maria Pacôme s'est éteinte aujourd'hui.
Europe 1.
Les images impressionnent autant qu'elles choquent. La mobilisation des gilets jaunes a donné lieu à des scènes de guérilla urbaine dans Paris.
Les violences entre manifestants et forces de l'ordre ont débuté dès ce matin aux abords des Champs-Élysées, notamment place de l'Étoile. Importantes dégradations, véhicules incendiés, jets de pavés. L'Arc de Triomphe a été tagué et des heurts se sont déroulés autour de la tombe du soldat inconnu. Édouard Philippe s'est dit choqué que les symboles de la France soient visés. Pierre Herbulot, vous vous trouvez au cœur de cette quasi-insurrection depuis ce matin. Quelle est la situation ce soir?
Alors la place de l'Étoile, lieu de ralliement des gilets jaunes depuis ce matin, est toujours occupée, toujours encerclée aussi par des centaines, voire des milliers d'effectifs des forces de l'ordre. Encore sur la place, le noyau dur des manifestants, souvent là depuis très tôt ce matin, comme Monique, une habitante de la région parisienne.
Dans toutes les rues qu'on a faites, dans toutes les rues on a été gazé, quoi. Donc pour moi c'est une mini-guerre civile, quoi. Moi je suis parisienne en plus et j'ai jamais connu ça, jamais.
Ça vous étonne?
Non, et ça va pas aller en s'améliorant, je pense. Donc il faudrait peut-être qu'il bouge, parce que là, on était venu la semaine dernière, c'était quand même moins pire que ça quand même. Ça bougeait bien, mais je pense que là, et la journée n'est pas finie. C'est un ras-le-bol complet, je pense, des gens.
Les avenues tout autour sont petit à petit vidées, comme l'avenue Foch, où de violents affrontements ont eu lieu cet après-midi et qui est maintenant pratiquement déserte. En revanche, à côté, sur l'avenue de la Grande Armée, des barricades sont toujours en feu. C'est là qu'un café a été pillé, qu'une boutique a été en partie incendié, comme une dizaine de véhicules. Je vous parlais de noyau dur de manifestants. Ici, c'est plutôt le noyau dur des casseurs qui ne prennent même pas la peine de mettre un gilet pour faire semblant d'être du mouvement.
Pierre Herbulle aux places de l'Étoile à Paris pour Europe 1. Les heurts se sont étendus dans différents points de la capitale jusqu'à la rue de Rivoli et même près de la très chic place Vendôme où vous vous trouvez, Rémi Bossaron, et où une voiture de police a été incendiée.
Oui, une voiture dont il ne reste qu'une carcasse calcinée. On voit à peine sur le capot le sigle de la police et autour d'elle des touristes, des passants médusés, comme partout où je suis passé en cette fin d'après-midi dans ces quartiers chics de Paris, un peu partout, les traces du passage de ces casseurs. Juste à côté, il y a une rue où une voiture et tous les deux roues ont été renversées un peu partout, des barricades avec des grilles, du matériel de chantier, des décorations de Noël aussi, qui se trouvent au milieu des rues. Il y en a une, par exemple, sur les grands boulevards, encore fumante, avec les voitures qui passent juste à côté. On voit beaucoup de commerçants, devant l'établissement, qui surveillent, qui s'inquiètent. Souvent, leur vitrine a été protégée par de grandes planches de bois. Ils craignent évidemment le passage de ces groupes très mobiles, difficiles à suivre pour la police. Des groupes qui se déplacent même de l'autre côté de la Seine. J'étais tout à l'heure rue de Solferino, près du musée d'Orsay. Il y avait des barricades en feu qui bloquaient la route avec une fumée irrespirable. Et il faut le dire, au milieu de ces blocages, au milieu de ces violences, il y a aussi des gilets jaunes un peu perdus, qui craignent que tous ces débordements ne cassent leur mouvement, ne rendent inaudibles ceux qui, comme eux, disent-ils, voulaient se faire entendre sans violence.
Rémi Bossaron près de la place Vendôme à Paris.
Et le bilan de la journée est déjà conséquent, au moins 224 interpellations uniquement à Paris.
Oui, 92 personnes ont été blessées, dont 14 parmi les forces de l'ordre. Des violences qui, on vient de le voir, Guillaume Bié, s'éparpillent.
Oui, parce qu'à force d'être stoppés, voire repoussés de la place de l'Étoile, eh bien les manifestants violents, les casseurs, se sont rabattus sur les artères chics du 16e arrondissement, l'avenue Foch, l'avenue Kléber, qui a subi un pillage en règle, voitures incendiées, magasins attaqués, incidents et violences rue de Rivoli où le calme vient de revenir, des incidents aussi au Trocadéro, au Jardin des Tuileries, mais aussi du côté de la gare Saint-Lazare, du boulevard Haussmann, la Madeleine, près des grands magasins, derrière la place Vendôme, un véhicule de police incendié, on vient de l'entendre. D'après nos informations, une autre voiture de police a été attaquée, vidée de son contenu et notamment dans le coffre. Un fusil d'assaut HK-G36 a été volé. Le chargeur vient d'être retrouvé, mais pas encore le fusil mitrailleur de la police. C'est donc encore très chaotique en ce moment. On est en train de régler la situation méthodiquement. Ça prend du temps, vient de déclarer Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, qui sort tout juste d'une réunion de crise place Beauvau. Alors comment en est-on arrivé là? Bien clairement, le dispositif des forces de l'ordre a été largement dépassé. La préfecture de police avait sanctuarisé un large périmètre autour des Champs-Élysées et des institutions, ça a fonctionné, mais du coup les casseurs ont semé le chaos ailleurs, d'abord à l'Étoile, autour de l'Arc de Triomphe et puis ailleurs. Et là, les forces de l'ordre n'avaient pas les moyens de se redéployer rapidement, pas assez de troupes pour contenir ces fauteurs de troubles, tout en continuant à tenir le périmètre et en sécurisant les pompiers qui se font attaquer lorsqu'ils veulent intervenir.
Et Guillaume, on parle beaucoup de Paris aujourd'hui. Ailleurs, la situation était certes plus calme, mais des incidents ont quand même éclaté en région.
Oui, même si dans la plupart des cas, les défilés se sont déroulés sans problème. À Avignon, par exemple, il y a eu des affrontements devant la préfecture, incidents aussi à Toulouse. Au Puy-en-Velay, les gilets jaunes ont forcé les grilles de la préfecture, sont entrés dans la cour. Le préfet a dû se réfugier dans ses bureaux. Charleville-Mézières, encore, des manifestants ont érigé une immense barricade de pneus devant la préfecture, jette projectiles, au moins 6 blessés.
Contraste saisissant entre les scènes de violence et d'autres manifestations pacifiques, celle-là, dans Paris.
Oui, plus d'un millier de personnes s'est rassemblée dans le calme à l'appel de la CGT pour réclamer au gouvernement d'infléchir sa politique. Certains gilets jaunes ont préféré manifester avec le syndicat pour ne pas être pris dans les heurts. C'est le cas de Gilles, retraité de l'éducation nationale.
J'ai renoncé à aller aux Champs-Élysées alors que je voulais y aller. Mais manifestement, je ne sais pas ce que sont ces gens finalement qui portent un gilet jaune et qui ne sont pas décidés à manifester sans casser. Bon, je ne suis pas un casseur, donc voilà, je me suis joint à cette manifestation, mais je ne suis pas tout seul en gilet jaune, et donc voilà, il y en a pas mal. Et c'est très heureux d'ailleurs qu'il y ait pas mal de pacifistes pour manifester.
Et en région, les gilets jaunes ont eu la surprise de recevoir un soutien inattendu.
Oui, à Antibes, les pompiers se sont joints au rassemblement. Grande satisfaction des manifestants qui se sentent soutenus, comme Caroline.
Ça remotive, ça y est, on nous soutient. Il y a d'autres corps de métier qui vont venir nous soutenir. Et voilà, il y a le ras-le-bol général. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Parce que les pompiers, c'est quand même une figure... Auprès de la population, le pompier, c'est sauver des vies, c'est être présent pour le peuple. Et donc là, il est là avec nous aujourd'hui, donc il est présent pour le peuple. Et c'est super. Je les remercie 10 000 fois même, 1 million de fois. Autant de fois qu'on est de gilets jaunes. Donc je pense ouais, que ça peut faire boule de neige. C'est le but, bien sûr. C'est le but, qu'on soit le plus possible dans la rue.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Jacques Terrance. Et à la suite de cette troisième journée de mobilisation des Gilets jaunes, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera l'invité du journal de 20h sur TF1 ce soir.
Europe 1. Elle restera dans la mémoire de tous, la comédienne au rôle de bourgeoise exubérante. Maria Pacôme s'est éteinte aujourd'hui. Nous reviendrons sur son parcours dans un instant.
19h10, la suite du journal. Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Sa voix et son ton étaient reconnaissables entre tous. Maria Pacôme s'est éteinte aujourd'hui.
La comédienne avait interprété de nombreux seconds rôles, notamment dans les films comiques. Maria Pacôme avait 95 ans. Retour sur sa carrière avec Mathieu Charrier.
Au départ, rien ne destinait Maria Pacôme au cinéma ou au théâtre. Bien au contraire, puisque lorsqu'elle épouse Maurice René en 1950, après avoir fait le cours Simon, Maria Pacôme décide de se mettre à la poterie pour ne pas porter préjudice à la carrière d'acteur de son mari. Heureusement pour le public, elle divorcera 6 ans plus tard et dès 1964, on la découvre dans Le Gendarme de Saint-Tropez, puis dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Maria Pacôme a joué dans une trentaine de films et décroche même quelques rôles principaux, celui de la professeure des Soudoués ou de la mère de Victor dans La Crise.
Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends?
Et en parallèle à cette carrière de cinéma, Maria Pacôme était également l'une des reines du théâtre de boulevard et a participé plusieurs fois à l'émission de télévision Au Théâtre ce soir. Son credo, les rôles de bourgeoise exubérante. Elle fut également l'un des piliers de la série Docteur Sylvestre sur France 3. La dernière fois que Maria Pacôme est apparue sur grand écran, c'était en 2012, dans Arrête de pleurer Pénélope, quelques mois après avoir fait la voix de la grand-mère de Titeuf.
Ça parle tout le temps, ma mémé.
Oh, j'en ai marre, j'aime autant aller parler à mes courgettes.
C'est ça, mon amour, entre légumes, vous vous comprendrez.
Maria Pacôme n'avait jamais reçu de distinction, mais avait été nommée 2 fois pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle et pour le Molière du meilleur One Woman Show.
Mathieu Charrier, le spécialiste cinéma d'Europe 1.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup, Sophie.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et la météo, c'est évidemment avec vous Valérie Darmon, le nord sous les parapluies demain dimanche.
Oui, la France est coupée en deux dans le sens inverse d'aujourd'hui. Ce samedi, l'ouest était sous la pluie, l'est au sec. Et bien demain, les 2/3 nord sont sous la pluie et un petit tiers sud reste protégé. La perturbation d'aujourd'hui aura progressé vers l'est et on va la retrouver sur les 3/4 nord de la France. Malgré la grande douceur, l'impression sera automnale, désagréable tout de même. Les températures sont pourtant élevées, hein, puisque l'après-midi, elles oscilleront entre 9 à Annecy et 18 à Biarritz. 12 annoncés à Bourg-en-Bresse, 13 à Strasbourg, 14 à Châteauroux, 15 à Troyes, à Caen et Angoulême, 15 également en région parisienne et à Lille, 16 à Nice et à Marseille.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports, toujours avec vous Simon Rubin. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Et on va commencer par du football, un match fou dites-vous.
Oui, Lille, 4e, recevait Lyon, 2nd dans l'ombre du PSG. Il fallait gagner, c'est la course au podium et à la 2e place qui se jouait. Lille, qui a longtemps mené 2-0, s'est finalement écroulé pour concéder le nul. 2 buts partout, Sébastien Bouet.
Un match fou truffé d'occasion, du suspense, mais au final, pas de vainqueur dans cette rencontre au sommet. L'OL arrache en tout cas un match nul, largement mérité cet après-midi. Dominateur dans le jeu, les Lyonnais se sont pourtant rapidement retrouvés menés 2-0 suite à 2 contre-lillois ultra réalistes. Pas grand-chose ne voulait sourire pour Lyon cet après-midi. Des occasions à l'appel et un pénalty raté par Memphis Depay à la 50e minute. Mais les hommes de Bruno Genesio ne sont pas désunis, n'ont pas baissé les bras et ont été récompensés en fin de partie avec tout d'abord un but de Traoré à la 63e minute pour la réduction d'écart. Et enfin, le but de l'égalisation signé Dembélé à la 86e.
Sébastien Bouet, rendez-vous à 20h avec Lionel Rousseau pour les autres affiches de la soirée.
On passe au handball et c'est l'Euro féminin en ce moment organisé par la France.
La France championne du monde qui a mal débuté en perdant son premier match. Aujourd'hui, les Bleus se reposent et c'est l'occasion pour nous de vous emmener à Créteil. C'est dans cette maison du handball de Créteil que se préparent les champions hommes et femmes. Le reportage d'Axel May.
Avec son imposante façade vitrée aux couleurs de la Fédération française, la maison du handball, implantée sur 14 000 m², a été inaugurée à la rentrée par les Bleus en pleine préparation de l'Euro. Et ça change tout, explique la capitaine Sierra Badembélé.
C'est plus agréable d'être dans une bâtisse comme ça que dans un hôtel, je ne sais pas où, en France. Surtout, on a tout sur place. On a la cantine, on a la muscu, on a le spa, on a des super salles d'entraînement. Les conditions de travail sont exceptionnelles.
Le nouveau QG des équipes de France a coûté un peu plus de 40 millions d'euros répartis entre la fédération et les collectivités. Et à l'heure où l'État compte ses sous, le directeur technique national du handball, Philippe Bana, y voit une nouvelle source de financement.
Ici, c'est 130 lits, c'est des séminaires possibles. Peut-être qu'on va pouvoir survivre à ce tsunami qui traverse un petit peu le sport français en termes de financement, qu'on va pouvoir faire perdurer ce rêve qu'on a donné à 600 000 Français qui jouent déjà au handball.
C'est aussi le sport d'équipe le plus titré du pays. À la maison du handball, les trophées internationaux sont fièrement exposés dans une vitrine où un emplacement semble déjà réservé à la médaille d'or que visent les Françaises à l'Euro.
Le reportage signé Axel May, les Bleus qui jouent donc demain contre la Slovénie.
Et c'était le journal des sports de Simon. Merci beaucoup Simon. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. L'ONU Sida vise la fin de l'épidémie mondiale en 2030, seulement dans 12 ans. C'est une bonne nouvelle, mais les autorités françaises alertent sur le dépistage nécessaire des plus de 50 ans. Et le vaccin, il arrive. Réponse avec Willy Rosenbaum, co-découvreur du virus du sida qui arrive.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Nous sommes avec Philippe Vandel et avec un invité particulier pour une journée particulière.
Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Bonsoir Willy Rosenbaum.
Bonsoir.
Vous êtes co-découvreur du virus du sida, médecin à l'hôpital Saint-Louis au service des maladies infectieuses, également ancien président du Conseil national du sida. Alors habituellement, quand je rencontre quelqu'un, je lui demande s'il va bien. Ma question est beaucoup plus générale. Comment se porte la lutte contre le sida ?
Bien, et puis pas si bien.
C'est-à-dire ?
Bien, parce qu'il y a eu des progrès extraordinaires qui ont été faits, tant en ce qui concerne le traitement des personnes qu'en ce qui concerne la prévention. Pas si bien, parce que ces outils qu'on a actuellement ne sont pas utilisés à la hauteur des besoins.
L'association mondiale ONU SIDA vise, je l'ai lu, l'éradication totale du sida en 2030. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Moi, ça me paraît formidable, c'est dans 12 ans seulement.
C'est-à-dire, oui, c'est comme je viens de vous dire. On a les outils pour éliminer la maladie, aussi bien qu'avec un vaccin, mais on ne les utilise pas autant qu'il faudrait.
Donc, ce n'est pas réaliste.
Si on s'en donne les moyens, si au traitement, on ajoute la volonté politique et le financement qui va avec, évidemment, on devrait pouvoir y arriver.
Alors, il y a 25 ans, tout rond, c'était le 1er décembre 1993, l'association ACT UP avait installé un préservatif géant sur l'obélisque de la place de la Concorde. On est en 2018 et un rapport de Santé publique France s'inquiète du faible niveau de dépistage, je cite, insuffisant chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Or, on a l'impression, à tort ou à raison, que le sida, c'est une maladie de jeunes. Est-ce que les jeunes sont devenus vieux ou est-ce que ce sont de nouveaux malades de contamination récente ?
Non, ça a toujours été comme ça. Plus on avance en âge, plus on a de probabilités d'avoir de nouveaux partenaires. On additionne les partenaires avec le temps, simplement.
Oui.
Et donc, on s'expose de plus en plus avec l'âge.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand moi j'étais jeune, ce n'était pas les quinquagénaires qui étaient atteints.
C'est déjà... La moyenne d'âge en France a toujours été au-delà de 30 ans où on se contamine. La moyenne, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se contaminer à 16 ans ou à 15 ans même. Même à la première contamination, au premier rapport sexuel. Mais plus on avance dans le temps, plus on s'expose, j'allais dire, et donc la probabilité augmente. Aujourd'hui, la moyenne d'âge où on se contamine, c'est 38 ans.
D'accord.
La moyenne.
Mais alors, la plupart des campagnes de prévention ciblent les 18-25 ans, parfois les 26-49, mais quand on cible les 18-25, c'est une erreur. Vous allez me dire qu'il faut faire des campagnes pour tout le monde.
Non, il faut faire des campagnes pour tout le monde, simplement.
Autre population à risque, c'est Paris, mais c'est la ville de France la plus touchée. C'est parce que c'est la capitale, c'est pareil dans tous les pays.
Dans les capitales, c'est plus fréquent, mais il ne faut pas penser qu'ailleurs, les gens sont indemnes. La région Île-de-France regroupe pratiquement 50% des personnes contaminées.
Combien de gens en France sont porteurs du VIH, le virus du sida, sans le savoir ?
Il y a entre 25 et 30 000 personnes, et c'est eux qui sont la principale source de contamination. Et donc, vous avez raison de poser cette question, parce que, étant la principale source de contamination, eh bien, si on les dépiste, on les traite, et quand on traite une personne séropositive, elle ne transmet plus. Et c'est une notion très importante. Le risque le plus faible qu'on ait de contracter le sida aujourd'hui, c'est d'avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive qui se traite. Ça, il faut que les gens l'entendent. Il faut arrêter de stigmatiser, il faut que les gens puissent se dépister. Quand on se dépiste, on se traite. Et quand on se traite, on arrête la transmission.
Vous avez dit se dépister et non pas se faire dépister. Vous encouragez les tests d'auto-dépistage ?
J'encourage toutes les sortes de tests.
J'explique, il y a des gens qui ne savent pas que ça existe. C'est vendu en pharmacie, 20 euros seulement. C'est fiable ?
Oui, bien entendu. C'est tout à fait fiable. Et tous les modes de dépistage sont à promouvoir, que ce soit l'autotest, que ce soit le test de dépistage rapide, le test chez son médecin, le test en laboratoire. Il y a 10 000 façons de se faire tester aujourd'hui, il faut toutes les
utiliser. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a annoncé une nouveauté à venir à partir du 10 décembre, le préservatif remboursé par la Sécurité sociale. J'imagine que vous allez me dire que c'est une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose, au moins symboliquement, c'est important.
Il est remboursé à 60% seulement, et une seule marque est autorisée, le modèle Eden, je le précise, de la marque Majorelle. Il n'y a pas de favoritisme, je le dis pour nos auditeurs et auditrices, c'est parce que c'était les seuls qu'on avait fait la demande. Je vais vous poser la question qu'on pose à tout médecin qui bosse sur le sida. Où en sont les vaccins ?
On a les vaccins.
Ah bon ?
C'est pas des vaccins chimiques, c'est pas des vaccins tels qu'on le prétend aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut prévenir la maladie, par exemple, en prenant un traitement avant de s'exposer.
C'est le PrEP ?
C'est le fameux PrEP ? Qu'on appelle la PrEP, la prévention pré-exposition.
Prophylaxie pré-exposition.
C'est ça.
Comment ça fonctionne ?
C'est un peu comme la pilule.
Ah bon ? Oui. Je vais vous dire ce que j'ai lu, moi, parce que j'ai découvert tout ça. Deux comprimés 2 heures avant un rapport à risque, puis un autre le lendemain et encore un autre le surlendemain.
C'est ça. Ça, c'est une méthode. C'est la méthode en fonction de son activité. Mais ceux qui ont une activité très intense, il suffit de prendre un comprimé par jour.
Libération a publié cet été un article au titre très joyeux « Vive la pilule préventive » où on apprend que le numérique arrive dans la lutte anti-sida. On peut avaler un mini-capteur qui va atteindre l'estomac, transmettre un signal à un patch porté par le patient, patch qui lui-même renvoie une appli sur le téléphone du patient. Ça vous fait sourire ?
Oui, parce que...
C'est de la science-fiction ou ça existe déjà ?
Non, le monde du numérique s'inscrit maintenant partout, y compris en médecine. Et on peut même, aux États-Unis, on vient de mettre en place une application où on peut se faire tester avec son smartphone.
Ah bon ? Comment ça ?
On met un petit appareil à son smartphone, on fait une goutte de sang et on peut se faire tester. On a le résultat en quelques minutes.
Et de la même façon, vous conseillez ce genre d'application ?
Ça n'existe pas encore en France et ce n'est pas encore diffusé de manière... Mais vous voyez que le numérique s'inscrit partout.
Je vais rappeler que la Haute Autorité de Santé recommande un dépistage au moins une fois dans sa vie pour les hétérosexuels et jusqu'à 4 fois tous les 3 mois pour les populations à risque, les hommes, c'est la Haute Autorité de Santé qui le dit, les hommes ayant des relations avec des hommes, la population subsaharienne, et les usagers de drogue. Merci beaucoup, Willy Rosenbaum, co-découvreur du virus du sida, ancien président du Conseil national du sida, d'avoir été parmi nous sur Europe 1.
C'est moi qui vous remercie.
Europe 1.
Dans un court instant, notre demi-heure culturelle, Diane Chénouda va nous parler de cubisme, Nicolas Caro de l'amant de sa femme, vraiment. Et Vanessa Zah s'est penchée sur le reggae de Jamaïque. Elle a quand même réussi à se redresser. Avec nous aussi, Alexandre Astier, comédien, metteur en scène, créateur de la série Kaamelott. C'est lui qui a co-réalisé le nouvel Astérix qui sort mercredi dans toutes les salles de cinéma. C'est juste après ça.
19h26, on retrouve tout de suite Philippe Vandel pour la suite de votre grand journal du soir.
La demi-heure culturelle de ce 18-20, Diane Chénouda avec nous, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Vous allez nous parler de cubisme, Nicolas Caro, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Vous allez nous parler de l'amant de votre femme, et je vous jure que c'est vrai, Vanessa Zah, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes penché sur un art qui vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité.
Le reggae.
Le reggae de Jamaïque, juste le temps de se rouler un quatre feuilles pour présenter notre invité, une sorte de génie multifonction. Bonsoir Alexandre Astier.
Bonsoir.
Vous êtes comédien, metteur en scène, créateur de la série Kaamelott, 6 saisons sur M6, 700 épisodes, mais là on ne va pas parler de ça. Vous avez également réalisé le film Astérix, Le Domaine des Dieux, qui en 2014 avait réuni près de 3 millions d'entrées. Je ne sais pas si ça se fait de réunir des entrées. En tout cas là, vous avez co-réalisé avec Louis Clichy le nouvel Astérix. Ça sort mercredi 5, autrement dit... Pour Noël, Astérix, le secret de la potion magique. C'est un film d'animation.
Oui.
Avec plein de voix.
Oui.
Et pas n'importe lesquelles. Christian Clavier, Daniel Mesguy, Shelley Semoun, Gérard Hernandez, François Morel, Florence Foresti. Je peux pas citer tout le monde, je peux citer votre voix également. Ouais. Vous êtes quel personnage ?
Je suis Ours en plus. Je suis le chef de la garnison qui est voisine du village des Gaulois.
Vous l'avez écrit pour vous ?
un petit peu. Déjà, je me suis dit, j'aimerais bien jouer un Italien, puisque on part du principe que les Romains sont Italiens, et que voilà, j'ai été élevé chez les Italiens moi-même, c'était un petit hommage. Et après, je me suis fait un personnage qui a du mal à se faire entendre. Mais ça, ce n'est pas la première fois que je le fais.
Alors, j'ai appris quelque chose avec vous. Alors, vous êtes totalement différent des autres. J'ai toujours cru qu'on faisait un dessin animé, et qu'ensuite, on mettait les voix. Pas du tout.
Non. En fait, nous, on en arrive à doubler ces choses-là parce que les Américains font leurs films comme ils veulent, mais ils nous arrivent déjà avec le son. Donc, ma foi, on ne fait qu'une adaptation, quoi, on double. Et moi, je voulais le faire un peu comme eux, c'est-à-dire on fait les voix d'abord, comme eux le font, en fait. Le film est inventé comme une fiction radio, donc il faut que ça marche à l'oreille. Et c'est ce matériau-là dont les animateurs disposent pour faire leur travail après.
Alors, le plus étonnant, c'est que l'histoire n'est pas un scénario préexistant dans les anciens albums d'Astérix. Elle n'est pas signée ni Goscinny ni Uderzo, qui sont les papas fondateurs d'Astérix, mais elle est de vous.
Oui.
Ma question est la suivante. Dans quel ordre ça s'est fait? Comment avez-vous convaincu les ayants droit d'adapter votre histoire? Est-ce que c'était difficile? Ou au contraire, est-ce que ce sont eux qui sont venus vous chercher?
Bien, mis à part le fait que le domaine des dieux avait réuni, comme vous dites, près de 3 millions d'entrées. Donc, ça constituait un petit peu un motif de confiance.
Ouais.
À part ça...
Il y en a qui ont fait 9 et 12 millions. Hein. Chabat, il a fait mieux, pardon de vous dire ça.
Il a fait 14.
Voilà, bim.
Exactement. Mais du coup, ça a pas mal fonctionné. Et donc, du coup, en se pointant avec une histoire originale, il a fallu présenter les points, surtout, qui me semblaient un peu tendus avec le monde d'Astérix et que j'avais envie de raconter. Parce que si ces points-là étaient validés et si... Albert Uderzo avait envie de se lancer là-dedans, après c'était bon.
Alors avant les points tendus, racontez les points pas tendus. C'est quoi l'histoire? Ça part de quoi?
C'est déjà tendu l'histoire. Ça part du fait que Panoramix, à la suite d'une chute, commence à se poser la question de la succession et de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas larguer le secret de la potion magique à quelqu'un.
Panoramix, c'est le druide.
Oui, tout à fait. L'inventeur et le conservateur de cette potion.
Et cette histoire, qui peut paraître ordinaire, est au contraire totalement iconoclaste dans le monde de la BD, dans le monde du dessin animé, où les héros ne vieillissent jamais.
Normalement, Astérix, c'est une licence dont les personnages ne vieillissent pas, ils n'ont pas forcément de futur ni de passé.
Lucky Luke aussi, hein.
Oui, c'est vrai.
Tintin aussi.
Oui, il n'y a pas de ça. Bah oui, mais là, le truc, c'est que je ne voulais pas forcément les faire vieillir, je voulais qu'ils acceptent d'avoir au moins temporairement conscience d'une mort possible. C'est pas tout à fait pareil.
Et alors, ça a été accepté facilement?
Finalement, oui. Et il y avait un deuxième point qui était un peu compliqué. C'était le méchant. Normalement, les méchants d'Astérix sont grotesques. On peut s'en moquer. Ils ont toujours des travers très... Au-delà d'être méchants, en tout cas, ils ont aussi des tas de travers rigolos. Moi, le mien, il est... mon méchant Sulfurix, il est sérieux. Il est bon. Il est réellement très doué. Il est très fort. Il est probablement même peut-être plus fort que Panoramix.
Il est très intelligent. C'est un deuxième druide, mais qui a pas réussi à être druide à la place du druide, si j'ose dire.
Oui, qui a digéré une espèce de sentiment de revanche comme ça pendant des dizaines d'années. Et là, il profite du fait que son vieux rival veut larguer sa potion pour venir s'immiscer comme ça dans l'histoire.
Alors, comme dans tous les Astérix, il y a différents niveaux de lecture. Si vous allez avec vos enfants, des tout petits, ils vont très bien comprendre parce que tous les druides sont en blanc, sauf le méchant qui est en noir, comme dans Oui.
Oui,
comme les Raptous, mais comme les Raptous, ils ont un bandeau sur les yeux, donc ils sont très faciles à reconnaître, ils ont un matricule. Sauf
en
que
revanche,
ce méchant...
Excusez-moi Philippe de vous interrompre, mais il me semble que les Raptous ne sont pas très reconnaissables entre eux.
Ah oui, c'est vrai.
C'est difficile de différencier les Raptous, je crois.
C'est même impossible, s'ils ont un numéro différent.
Un numéro différent, oui. Mais les Castors Juniors ont une couleur différente en face.
Oui, la casquette.
Et vous savez quoi, si on parle là-dessus, on est là à 20h. Moi, je voulais en arriver à ma question. Pourquoi vouliez-vous ce méchant intelligent et presque attachant?
Tout le monde a des travers, mais les travers des... Moi, je préfère les méchants. Je préfère Dark Vador à tous les autres personnages de Star Wars.
Vous connaissez la phrase d'Hitchcock? Un bon film, c'est un bon méchant.
Exactement. Et moi, je crois beaucoup à la phrase d'Hitchcock et je suis avant tout séduit par mon méchant et c'est autour de lui que je construis le reste.
Vous posez des questions qu'on ne s'était jamais posées. Par exemple, puisque Panoramix possède la potion magique, pourquoi ne sauve-t-il pas toute la Gaule plutôt que le petit village?
Oui.
C'est quoi la réponse?
Alors la réponse, elle est, j'espère, un petit peu dans le film, mais je pense qu'il y a une responsabilité quasi nucléaire avec cette potion magique. Et je pense que c'est une arme, si jamais elle était divulguée à tout le monde, je pense qu'il y a une explosion planétaire ou une annulation de l'espèce humaine, je ne sais pas.
Non mais c'est incroyable, parce que là, c'est justement la réflexion qu'on est en train de se poser. Est-ce que les Coréens du Nord doivent avoir potion magique, la bombe nucléaire? Est-ce que l'Iran doit l'avoir? Et c'est la question que vous posez. Si tout le monde a la potion magique, oui, qu'advient-il du monde?
Alors après, le problème, c'est que dans la vie réelle, ceux qui se sont arrogés la position de police nucléaire, c'est ceux qui l'ont utilisé contre des populations civiles. Donc on peut se poser la question de savoir si c'est bien eux qui doivent décider. Mais en tout cas, il y a un truc de clair, c'est que si jamais tout le monde, et selon tous les travers des ethnies différentes, possède la potion magique ou l'arme nucléaire, je pense qu'il y a un vrai problème.
Là, il y a des parents qui sont en train de se dire « Ouh là là, ça va être une prise de tête, c'est le monde diplo. » Non, non, je vous rassure, c'est à la fois le monde diplo et le journal des tout-petits. Est-ce que c'est moi ou certains personnages ressemblent à l'acteur qui fait leur voix ? J'ai l'impression que François Morel, qui fait la voix du vendeur de poissons, du poissonnier hors d'Alphabetix, ressemble à François Morel. Ou est-ce que je me trompe ?
Non, non, je pense que c'est la magie de sa voix qui doit fonctionner, Philippe, parce que je ne crois pas que Louis Clichy ait prévu de modéliser le personnage dans l'Alphabetix en fonction de François Morel.
C'est pas vrai, je suis déçu. J'ai lu que vous aviez, on l'a pas cité encore, j'ai vu que vous aviez filmé Daniel Mesguich qui fait la voix du méchant pour avoir des expressions.
Alors, oui, mais pas sur la modélisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas fabriqué les personnages, en tout cas leur forme. Là, celle-là, c'est vraiment respectueux du monde du Derzo. En revanche, on a filmé tous les acteurs qui faisaient une voix sur ce film pour avoir le matériau de leurs gestes à utiliser, ou oui ou non, selon qui, parce que ce n'est pas intéressant chez tout le monde. Mais il y a des animateurs qui se sont inspirés des vrais mouvements des personnages qui ont enregistré les voix, parce que des fois, ça tombait bien, notamment dans le cas de Mesguich ou de Morier Genoux qui fait César, qui sont des acteurs plutôt expressifs et gestuels. Il y a des choses qui ont été reprises dans le film. Oui.
Et alors, ce que j'aime bien, c'est que le César a la tête de César dans les albums d'Astérix. Vous ne lui avez pas, vous l'avez pas changé de tête.
Non.
Et avec son nez Camus, comme
exactement. Et Louis Clichy lui a fait les oreilles très légèrement transparentes. C'est-à-dire que s'il est à contre-jour, on voit un peu à travers ses oreilles.
Mince, ça me donne envie de le revoir, parce que j'ai pas remarqué ça.
Ah ben, allez-y, je vous invite.
Vous cassez un autre code, ou alors peut-être vous le cassez pas, mais je m'en étais pas rendu compte. Il y a des anachronismes, comme les langues de belle-mère, par exemple, quand on fait la fête.
Je suis pas persuadé que ça existait.
Qu'il y avait ça dans Astérix ? Des anachronismes, ou est-ce que c'est vous qui les avez emmenés ?
Pas sur les objets. Et là, en l'occurrence, c'est Louis Clichy qui a voulu s'amuser avec ça. Donc non, ça, je ne crois pas qu'il y avait ça dans Astérix. Il y a des anachronismes dans les calembours verbaux, mais oui. pas des objets, non.
Non, le sens de ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un dogme ? Est-ce que les héritiers de Goscinny disent pas « ça t'as le droit, ça t'as pas le droit » ?
Ils peuvent faire gaffe, oui, ils surveillent, mais notamment Albert Uderzo lui-même, qui est là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais je ne crois pas que ça se passe là-dessus exactement, parce que ça peut être très actuel, Astérix. D'ailleurs, ça l'a toujours été. Et je crois qu'en fait, Astérix n'est pas coincé. Il n'est pas sain dans une clôture. Il peut sortir, en fait.
Je ne vais pas spoiler la fin, mais ça se termine à la fois dans le genre fantastique, limite héroïque fantasy, et en même temps un peu politiquement correct.
C'est deux compliments ou deux pas compliments ?
Non, c'est antagoniste. Et c'est ce qui m'a intéressé.
En fait,
c'était du en même temps.
Eh ben, alors ça se finit un peu héroïque fantasy parce qu'on aime vraiment ça avec Louis Clichy et qu'on avait envie de se payer ça, c'est vrai. On trouvait que ça allait bien avec
Mais coup de bol que vous ne mettiez pas à l'antenne tout ce que vous aimez.
Ben,
imaginons que vous aimiez le rodéo.
Ben pourquoi pas ? Eh ben. Il y a des sangliers, il y a tout
musée.
Ce qu'il faut.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, on peut très bien faire tout ce qu'on veut.
Non mais c'est complètement barré. Ah, juste un truc que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il y a plein de sangliers partout. Il y a des sangliers de compagnie.
Alors, il n'y a pas de sanglier de compagnie, mais si vous regardez, par exemple, si vous lisez l'album aux Jeux Olympiques, vous voyez qu'ils partent avec leur sanglier sur pattes.
D'accord.
Pour les manger sur place.
Oui, mais là, c'est des petits, ils sont hyper gentils, ils les caressent, donc ils ne vont pas les manger.
Et non seulement
c'est
ça, mais dans ce film-là, il y a même des messagers.
Oui, alors pourquoi ça ? Ça vient de vous ou pas ? Ou ça existait vraiment autrefois ?
Non, c'est druidique. Par contre, les druides, ils ont la réputation d'avoir un contact avec les animaux, pas que les sangliers, avec les chouettes, avec plein de trucs. Donc, c'est assez logique de dire qu'un sanglier pourrait être, pourquoi pas, messager d'un druide.
Vous savez quoi, Alexandre Astier ? Plus on se parle, plus j'avais l'impression que vous étiez carré, et plus j'ai l'impression que vous êtes complètement fou.
Vous croyez ?
J'en suis certain. La suite, vous allez voir, chers auditeurs, que je ne me trompe pas. A tout de suite.
19h37, vous écoutez toujours Philippe Vandel.
La demi-heure culturelle de ce 18-20, suite mais pas fin, nous sommes avec Diane Chénouda, Nicolas Caro, Vanessa Zah. On va parler de voyage, on va parler de littérature, on va parler d'art, de cubisme. Alexandre Astier est avec nous, comédien, metteur en scène. Et vous avez co-réalisé avec Louis Clichy le nouvel Astérix. Ça sort mercredi 5, ça s'appelle Astérix, le secret de la potion magique. Je disais que la fin ressemblait à de l'héroïque fantasy matinée de fantastique avec des effets spéciaux, si tant est qu'on puisse faire des effets spéciaux sur des images de synthèse. Et en même temps que c'était politiquement correct. Et ces deux mots n'avaient pas l'air de trouver grâce à vos yeux.
Alors, ben, le politiquement correct, ce n'est pas très flatteur pour un auteur, hein, forcément. Il y a une manière plus jolie...
Je ne veux pas dire qu'il gagne à la fin.
Non.
Parce que je ne veux pas spoiler, mais la fin est politiquement correcte.
Oui, déjà, elle est devenue politiquement correcte après que je l'ai écrit.
Ah bon ?
Ah oui, c'était un peu antérieur à tout ça. Et enfin, c'est très difficile sans dévoiler le truc.
Voilà. Là, on est très mystérieux parce que les gens ne savent pas ce qui se passe et on ne sait pas ce que vous avez écrit. Donc, savoir qui arrive avant l'autre...
Ça peut potentiellement être féministe, c'est ça que vous voulez dire?
Exactement.
Oui, mais on peut être féministe sans être dans le vent. Et puis, c'est pas... Voilà, moi, j'écris beaucoup par rapport à mes enfants. Là, il s'agit d'un enfant. Et c'est plutôt un hommage à ce que je vois à la maison plutôt que d'essayer de faire partie d'un mouvement. Voilà.
Il y a parfois, dans le film qui est réalisé en 3D, en images de synthèse, des refs à l'ancienne, en 2D. C'est parce que vous n'aviez plus assez d'argent ou c'était un choix?
Bah écoutez, un mec qui finit en politiquement correct peut bien faire un petit truc en
ref.
Vous
avez très bien compris ce que vous voulez dire. Est-ce qu'on fait des refs ou pas du tout? Ou est-ce que vous saviez que vous alliez mettre ça déjà? Ou est-ce que vous avez dit, tiens, et si on se permettait de faire ceci? Comme quand parfois, des groupes de rock mettent un son enregistré avec un mini-cassette tout pourri et ça fait un son incroyable.
En fait, le matériau rough, c'est le premier matériau sur lequel on travaille quand on fait le CGI. C'est-à-dire que ces dessins bruts, là, ça constitue la seule chose qu'on voit pendant, j'allais dire, des années. Les vraies belles images de synthèse arrivent très tard, en fait, dans la production. Et en fait, on reste nostalgique de ça parce qu'effectivement, c'est très brouillon. Il y a peu d'images par minute. Hein, c'est des blocs comme ça, de trucs un peu fixes. En revanche, c'est très sensuel pour certaines parties du film. Et c'est vrai qu'avec Louis Clichy, quand on s'est dit, mais tiens, on va parler un peu du passé de Panoramix et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de ce passé un truc un peu comme ça, au trait. Et on avait des artistes super dans l'équipe qui étaient capables de faire ça et voilà, on a fait ça.
C'est alors, quoi le ref?
Le ref, ça veut dire des...
C'est
ça s'écrit R-O-U-G-H et ça veut dire les croquis.
Oui.
Donc, alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Donc c'est les vrais refs ou vous vous êtes dit, tiens, on va en refaire des faux?
Non, on les
mais
a refait exprès. Et je vais même vous dire, ce que Louis Clichy a refait avec le dessinateur, David, ils sont même encore plus rough que ceux sur lesquels on travaillait. C'est-à-dire qu'il y a moins d'images par seconde encore. C'est vraiment un truc très saccadé, avec beaucoup de traits, avec un grain extrêmement épais. C'est un vrai hommage au croquis, oui.
Et il ne faut pas, évidemment, arriver en retard, mais il ne faut pas partir avant la toute fin, parce que même le générique est très, très, très chiadé, avec plein de petites images qui se baladent partout. Tout à fait autre chose, Nicolas Carreau, oui. Vous êtes notre monsieur livre, et cette semaine, vous avez lu le prix de Flore, ça s'appelle « Anatomie de l'amant de ma femme », c'est chez L'Arbre Vengeur, et vous validez le choix du jury du prix de Flore, je le dis tout de suite, jury dont je fais partie.
Oui, et je précise que ce n'est pas une commande.
Exactement. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit « Tu es sûr que tu vas faire ça ?» Il m'a dit oui.
En fait, le roman m'avait attiré quand je l'ai vu. Et puis, je l'ai perdu dans le déménagement. Je vous jure que c'est vrai.
Heureusement. Vraiment, ça manquait.
J'ai récupéré un exemplaire. Je l'ai lu. Et bravo, Philippe. Vous avez fait du bon boulot. « Anatomie de l'amant de ma femme » de Raphaël Rupert. C'est l'histoire de Raphaël. Sa femme, Laetitia, est écrivain. Pas un génie, mais elles vont de quoi vivre. C'est déjà beau. C'est pas un couple fou. Hein, ils s'ennuient un peu tous les deux. Raphaël, lui, il est architecte, mais un jour, sur un coup de tête, il se dit que bah, lui aussi, il va écrire des livres. Pourquoi pas, il en est bien capable. Il réfléchit pas trop longtemps, de peur de reculer peut-être, et il vend les parts de son cabinet d'architecte. Et ensuite, il reste chez lui pour écrire son grand roman. Manque plus que l'inspiration. Alors là, il glande beaucoup pour la trouver. Et à force de traîner chez lui, il tombe sur une boîte en carton sous le lit conjugal. Et dedans, il y a des carnets écrits par sa femme.
Et son journal intime, entre
voilà, autres. Voilà, il lit, il sait qu'il ne devrait pas, mais il lit. Et bon, il n'y a pas de suspense, c'est dans le titre. Il tombe sur un passage sans équivoque où sa femme décrit ses ébats avec son amant. Alors déjà, découvrir que votre femme vous trompe, c'est pas agréable. Mais en plus, il a l'air d'être sacrément doué, l'amant. Et c'est ça ce qui inquiète le plus Raphaël.
Plus que doué, il a l'air d'être sacrément équipé.
Voilà.
Sauf que ça va lui donner de quoi nourrir son œuvre.
Voilà, et il se débat entre la révélation du journal de sa femme et son roman à lui, qui patauge un peu. Ouais. C'est une réflexion sur le couple, sur le désir, sur la création. Mais ne vous attendez pas à une comédie romantique ou un roman sur la fidélité. C'est d'abord un roman très drôle, servi surtout par un très beau style. C'est un bonbon. D'ailleurs, regardez la couverture, rose et acidulée. L'éditeur aussi est intéressant, L'Arbre Vengeur. C'est une mine, un éditeur indépendant bordelais encore trop peu connu, mais soutenu par les libraires. C'est une maison d'édition exigeante, c'est-à-dire qu'il fait son travail d'éditeur. Il ne propose que des bons textes.
Anatomie de l'amant de ma femme chez L'Arbre Vengeur, donc signé Raphaël Rupert. Merci beaucoup Nicolas. Et je rappelle que c'était le prix du Fort 2018. Ça va vous plaire, un roman comme ça dans lequel les femmes ont le beau rôle, Alexandre Astier?
Absolument. Rien ne nous dit que vous avez voté pour celui-là vous-même.
C'est vrai.
Puisque vous le dites, j'ai pas voté pour celui-là.
Ah, voilà.
Pourtant, il a très envie d'être lu.
Je veux dire pourquoi je vous pose la question. Parce qu'on vous avait fait ce reproche avec Kaamelott. On avait dit que c'était une série misogyne et vous en étiez défendu.
Oui, oui, ça m'agace beaucoup. Bah, c'est-à-dire que là, on est quand même rentré dans une époque où les gens s'expriment beaucoup sur les réseaux et ils voudraient vous dire quoi écrire et puis ils voudraient aussi vous dire quoi pas écrire. Et je pense que je fais ce métier pour qu'on me foute totalement la paix sur ce que j'écris. Je ne pense pas qu'on puisse parler de féminisme sans mettre en scène des personnages misogynes. Ça, moi, j'y arrive pas, je ne sais pas faire. Je ne pense pas qu'on puisse parler de tolérance si on ne met pas en scène des personnages racistes et injustes et peureux. Donc, et en plus de ça, ils sont drôles, parce que je pense que quand on se moque de ces gens-là, quelque part, on ressort du truc un poil moins raciste et un poil moins misogyne quand on a mis ces personnages-là dans des cases de ridicule. Donc voilà, je pense que c'est un métier et que je ne me passerai jamais d'écrire des personnages racistes et misogynes parce que j'adore les écrire. Ça veut pas dire que je les aime dans la vie.
Et si je me trompe pas, tous vos personnages sont un peu nuls dans Kaamelott, les femmes comme les hommes. Personne n'a le beau rôle, ou est-ce que je me trompe?
Surtout les hommes.
Pardon, mais si vous regardez bien Kaamelott, je pense que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Elles sont plus derrière parce que c'est une ancienne société et qu'on met les hommes devant. Mais les hommes sont nettement moins efficaces qu'elles quand il s'agit de trouver des bonnes solutions aux choses. Donc voilà, non, je ne suis absolument pas d'accord avec cette critique.
Il y a un écriteau dans ce Astérix, la forêt des druides est interdite aux femmes. Pourquoi ça vous énerve et pourquoi vous avez mis cet écriteau?
C'est pas qu'elle est interdite aux femmes. L'écriteau, très exactement, dit « La forêt des Carnutes est interdite aux non-druides » et il y a un tout petit panneau en bas, entre parenthèses, où il y a marqué « Et aux femmes, évidemment ».
Voilà. Ouais. Pourquoi ça vous a énervé? Pourquoi vous avez mis ce panneau? Parce que c'est pas pour rien.
Non, déjà, je voulais visser la forêt des Carnutes et ses druides dans une bureaucratie insondable et immuable, parce que j'en ai besoin, justement parce que le méchant qui arrive à toutes les latitudes de l'improvisation, et de voilà, c'était ça qui me plaisait. Et puis, j'aime bien ces druides-là qui interdisent ce truc-là, parce que je vais vous dire, je ne pense pas qu'ils l'interdisent en toute conscience. Je crois que c'est juste une tradition pourrie. Et je pense que dans notre pays aujourd'hui, je pense que la vraie misogynie, la véritable misogynie convaincue des hommes qui sont persuadés que les femmes sont inférieures, commence à se raréfier. Il y a encore trois connards qui vont bientôt mourir, mais je veux dire... En revanche...
Ça dépend des parties du globe, pardon, hein. Je ne veux pas lancer un débat.
Non, non,
mais...
je disais chez nous. D'accord. Non, je sais, il y a des pays où les femmes ont le droit de conduire depuis un mois. Non, je suis d'accord. Mais je veux dire, je pense surtout que le danger vient de la bonne vieille tradition qui ne bouge plus et qui, voilà, c'est plutôt à dépoussiérer qu'à... Voilà.
En parlant de bonne vieille tradition qui ne bougeait pas et que vous faites bouger, auparavant, il n'y avait quasiment que des mecs dans Astérix. Et là, il y a une petite fille, Pectine.
Ouais. Oui. En fait, il y a quand même eu des enfants. On voyait toujours, ci et là, des enfants qui jouaient dans le village. Et comme là, il s'agit d'eux, parce que quand on dit « bon, alors qu'est-ce qu'on va faire pour le futur ?» on porte quand même son regard sur les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont être irréductibles, eux aussi. Ils vont être romains, ils vont être gaulois, on ne sait pas. Ben voilà, il y a une école et c'est Panoramix le prof et il y a des petites filles.
Alexandre Astier reste avec nous. On retrouve Vanessa Zah, Diane Chenouda, Nicolas Carreau ne s'en va pas, ni l'amant de sa femme. À tout de suite sur Europe 1.
19h47 pile, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 et nous sommes avec Philippe Vandel pour quelques minutes encore.
La demi-heure culturelle de ce 18-20, suite et fin, toujours en compagnie d'Alexandre Astier et Diane Chenouda. Vous êtes notre Madame Culture, si j'ose dire, et vous venez nous parler de la grande exposition sur le cubisme au Centre Pompidou.
Oui, Philippe, et aussi de cette opération exceptionnelle au cœur de l'expo que nous lançons avec Europe 1 en direct dans les cinémas. Alors, vous connaissez l'opéra, les ballets, le théâtre, dont les spectacles sont souvent retransmis en direct dans les cinés. Eh bien, c'est le même principe, sauf que pour la première fois en France, eh bien, ce sera la visite d'une exposition. Ça a été fait une fois à Londres pour Léonard de Vinci. Là, c'est l'exposition sur le cubisme qui ouvre le bal et que l'on va vous faire vivre en direct dans plus de 70 cinémas partout en France. CGR, Kinépolis et des indépendants. Une soirée présentée par Frédéric Taddeï, qu'on connaît bien évidemment ici à Europe, qui déambulera dans l'expo comme un simple visiteur, filmé bien sûr. On écoute Frédéric Taddeï.
Vous voyez, on aimerait toujours, quand on va voir une grande exposition, qu'il n'y ait pas trop de monde. Et puis on a toujours envie aussi d'avoir à côté de nous une petite voix qui nous dit exactement là où il faut regarder dans le tableau, pourquoi il est différent de tous ceux qui sont autour, etc. etc. Ben là, c'est un peu ça qu'on va essayer de faire avec au cœur de l'expo. On verra les tableaux mieux qu'on ne les voit jamais. On les va aller voir sur grand écran, en haute définition. Il y aura personne entre vous et les tableaux. Et puis, autour de moi, il y aura les meilleurs spécialistes du cubisme. Il y aura à la fois des historiens d'art, des critiques d'art, mais aussi des artistes, des invités surprises pour nous aider à comprendre pourquoi le cubisme, c'est une telle révolution.
Au cœur de l'expo sur le cubisme, donc ce sera jeudi prochain, le 6 décembre à 20h. Ça va durer 1h30. Le prix, hein, à peine plus cher qu'une place de ciné. Et voilà, je vous donne les détails pratiques. Hein. Il faut réserver sur le site de CGR events.com.
Et vous, Diane, vous l'avez vu cette expo sur le cubisme au Centre Pompidou?
Mais oui, Philippe, bien sûr. Et je peux vous dire que les spectateurs vont se régaler. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Alexandre Astier. C'est une énorme expo, très très belle. 300 œuvres de Picasso, Braque, les deux inventeurs du cubisme. Et puis beaucoup d'autres, Delaunay, Juan Gris. Ça commence avec Picasso, autoportrait de 1907 marqué par l'art africain. Et avec les Demoiselles d'Avignon, bien sûr, mais elles ne sont pas là, hein. Elles sont au MoMA, elles ne peuvent pas quitter le MoMA. Mais pour la première fois, eh bien, le mot cubisme sera prononcé à propos de ce paysage de l'Estac de Braque. Écoutez, Christian Brien, c'est l'un des commissaires de l'expo.
Vous avez sous les yeux ce tableau qui probablement a amené ce critique à utiliser le mot de cubisme parce que vous y voyez des formes de paysage réduits à des formes géométriques. Là, le cube est très présent. Et c'est Matisse qui, devant ses heures, a parlé de petits cubes. Et cette expression a été donc reprise par ce journaliste qui a lancé ce néologisme de cubisme.
Voilà, on va de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre avec de magnifiques compositions presque abstraites, hein, comme le joueur de guitare de Picasso ou alors les kaléidoscopes de couleurs de Delaunay jusqu'à la musicienne de Braque en 1917.
Merci beaucoup Diane Chenouza. Question à vous Alexandre Astier à propos de conférences. Vous aviez donné une série de conférences scientifiques sur les mystères de l'univers, c'était baptisé Exoconférence. Vous aviez rempli Bercy en 2016. Est-ce qu'il y en aura d'autres?
De spectacles ou de conférences? Parce que c'était un spectacle hein, qui prenait le.
Et sur d'autres thèmes, est-ce que c'est toujours dans vos projets où vous avez tellement de choses à faire que non?
De monter sur scène, pas tout de suite. Je ne vais pas avoir le temps tout de suite de monter sur scène. Mais j'essaye d'y aller régulièrement, oui.
Vous aimez la musique?
Ça m'arrive, oui.
Ça tombe très bien, on parlait de musique. Vanessa, on part avec vous à la recherche d'une autre potion magique, qui est celle des Rastas. Une once de ganja avec des feuilles autour. On s'envole pour la Jamaïque et on célèbre l'inscription du reggae au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Ça, c'est pour mettre de l'ambiance dans le studio. Le reggae, qui est exclusivement jamaïcain, qui est considéré comme la musique des opprimés, qui est indissociable du rastafarisme. Hein, donc, je rappelle, c'est ce mouvement mystique qui encense l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié et qui encourage la consommation de marijuana. Je précise, qui est légalisé sur l'île. Alors, avant justement de débarquer en Jamaïque, il est important quand même de savoir qu'on ne débarque pas que dans une carte postale. Il y a évidemment un côté paradis perdu avec cette végétation tropicale, ces montagnes, ces rivières, ces chutes d'eau, ces plages paradisiaques qui sont pour la plupart privées, il faut le préciser.
Ah oui ?
Mais il y a aussi et surtout un côté plus sombre que l'on se prend de plein fouet en arrivant. Il faut le dire, les fantômes du passé, la violence, l'esclavage sont encore bien présents dans les mémoires et dans le sang surtout des Jamaïcains.
Et malgré tout, l'île attire, on vient surtout en pèlerinage sur les traces du grand Bob Marley, j'imagine.
Oui, alors on part dans sa ville, à Kingston. Kingston, au passage, qui n'a pas d'autre intérêt. C'est une ville moderne qui s'étend sur des kilomètres, assez laide, sale et parsemée encore de murs de barbelés. Alors, il y a trois spots Bob Marley à ne pas rater. Le premier, c'est le quartier chaud de Trenchtown. C'est un ghetto dans lequel il a grandi avec sa mère. Donc aujourd'hui, on peut voir à Culture Yard ce qu'il reste de leur maison. C'est-à-dire pas grand-chose. La carcasse du combi avec lequel il faisait ses premières tournées, une cuisine de fortune, un lit et puis dans une vitrine, il y a une guitare. Voilà. Le deuxième spot, alors là, je pense que tout le monde le connaît, c'est son studio à Downtown. C'est le Tuff Gong International Studio, celui qu'il a créé pour s'affranchir de la pression des producteurs. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable dans ce hangar, c'est que les presses d'époque crachent encore des vinyles, d'ailleurs que vous pouvez acheter, et vous êtes dans une authentique ambiance d'usine. Et il y a une autre chose à savoir, c'est que ce studio est devenu l'un des plus importants des Antilles. Des stars mondiales ou bien des jeunes groupes viennent toujours enregistrer et au même prix qu'avait fixé Bob Marley.
C'est pas vrai?
Ouais. Donc, par exemple, Alpha Blondy, Youssou N'Dour, Snoop Dogg ou même Pierre-Paul Jacques qui sont bien accros au studio. Et un dernier spot de Bob à Kingston.
Je les imaginais accros à d'autres trucs.
J'ai bien compris.
Je suis
mais
bien content que vous rétablissiez la vérité.
Hotspot, c'est sa maison qui se situe sur le flanc de la Grosse Hope Road. Aujourd'hui, c'est un musée. Alors, en fait, c'est un peu un grand mot. En plus, ça coûte un peu cher parce que c'est quand même $30 l'entrée. Ouais. Ça vaut pas vraiment le coup, je vous dis quand même ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire pratiquement rien, un petit studio, des pièces vides tapissées de coupures de presse, de disques d'or, de platine, quelques costumes, et puis bon, y a sa chambre avec son bonnet rasta sous une cloche.
Dis donc, il doit sentir bon le bonnet rasta.
il vous attend. En fait, le plus intéressant, ça se trouve dehors, c'est à l'extérieur. En fait, les murs sont recouverts de fresques engagées, et le clou du spectacle, c'est le parking. Le parking derrière sa maison, en fait, c'est le rendez-vous des fumeurs de ganja qui viennent tirer des taffes en sa mémoire tous les jours.
Vous savez que Vanessa Hazard, vous êtes en train de faire l'apologie de la drogue. Ah, je suis obligé de dire qu'il faut consommer avec modération. Mesdames, messieurs,
moi,
ne
faites
pas ça.
Moi, je suis la ligne éditoriale que vous m'avez donnée. Hein.
Voilà. Alors, une fois parti sur les traces de Bob Marley, qu'est-ce que vous nous conseillez et que vous nous déconseillez de voir en Jamaïque?
On oublie d'office la côte centrale, hein, c'est-à-dire Ochos Rios, Montego Bay, c'est bétonné, c'est construit, c'est le tourisme de masse par excellence. En revanche, je dis oui aux Blue Mountains hein, pour les plantations de café. Vous savez, c'est ce café...
Je pensais que vous allez dire autre chose.
Oui, mais attendez, ça va venir. Vous savez, ce café avec un petit arôme de chocolat, c'est assez rare, donc c'est l'un des plus chers du monde. Et dans ses hauteurs, évidemment, on y trouve aussi la meilleure marijuana du monde. Je le dis, je le redis et je l'assume.
Et moi, je vais
vous,
le dire,
Philippe.
C'est même pas conseil avec modération, c'est interdit, c'est défendu.
Et je dis surtout de rester sur la côte sud, voilà, sur les plages de sable fin de Treasure Beach. Beaucoup de charme. Et là, vous êtes surtout loin des vendeurs d'herbes et de bibelots qui arpentent les autres plages de l'île.
Merci beaucoup, Vanessa Zah. Question à vous, Alexandre Astier. Dans le dernier Astérix, pourquoi avoir choisi, ou sans hasard, ce thème de la potion magique? Pourquoi ça vous fascine à ce point? Toutes ces herbes que les druides mettent dans des trucs très bizarres.
C'est pas ça qui m'a fasciné sur ce truc-là. C'est le fait qu'on demande à ce druide, qui est censé être le meilleur du monde, de faire la même potion depuis potentiellement des dizaines et des dizaines d'années sans jamais rien inventer d'autre. Je suis persuadé que n'importe qui a envie d'inventer des trucs, si on lui demande pas de remettre son titre en jeu à un moment, il y a un truc qui va pas.
Vous êtes lyonnais ?
Oui.
Vous savez bien que les gars, ils font le gratin dauphinois et l'andouillette à la même manière qu'il y a 150 ans.
Je sais bien, mais moi j'ai été élevé chez les Italiens à Lyon, j'ai jamais bouffé ces trucs-là, moi je vous fais des pâtes et des raviolis aux épinards.
Ah bah dis donc, allez faire changer une recette de pâtes à un grand cuisinier italien, vous allez voir, vous êtes reçu. Nicolas Caro, est-ce que vous sentez le courage de poser à Alexandre Astier la question interdite? Moi je ne l'ai pas,
bien.
Je quitte ce studio avant de vous dire tout au revoir.
Je veux bien, mais je dois préciser quand même que vous me l'avez demandé, je le fais parce que je vous aime bien, mais aussi parce que vous êtes mon patron, et j'adore Alexandre Astier,
moi
et
aussi.
On m'a dit qu'il se mettait en boule quand on lui posait cette question, mais j'y vais. Voilà.
Je vous assure que c'est une erreur. Alexandre, alors est-ce que je peux rétablir
Astier
avant cette question? Est-ce que je peux
parce que vous la connaissez, évidemment.
Je la connais.
On m'a dit chaque fois qu'on vous la pose, vous énervez.
Pas du tout, c'est juste que je réponds pas. C'est tout, d'accord. Mais je ne réponds pas avec beaucoup de gentillesse. Regardez, essayez, vous allez voir.
Je vais la faire différemment. Nicolas Caro, à quelle question ne voulait pas répondre Alexandre Astier?
Quand allez-vous réaliser votre rêve secret, Kaamelott, le film au cinéma?
Oui, ça marche très bien.
C'est-à-dire que vous avez énervé avant, en fait.
Merci beaucoup, Alexandre Astier. Ce silence est éloquent. Merci d'avoir été avec nous. Merci Vanessa Zah. Merci Nicolas Caro. Merci Diane Chenouda. Je le rappelle, Astérix, le secret de la potion magique, c'est mercredi dans toutes les salles de cinéma.
Europe 1.
Et dans un instant, sur Europe, surtout pas du silence, puisqu'on va retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Philippe.
Et le programme alors?
Très très beau programme dans une très bonne ambiance. On va revenir sur le Lille-Lyon de partout qui a été excellent cet après-midi. Et puis quatre matchs au programme, notamment Monaco-Montpellier et Guingamp-Nice avec nos experts. L'analyse en direct, on va se régaler. On dira peut-être un petit mot uniquement pour vous faire plaisir sur la victoire de Saint-Etienne hier.
Oui, je vous ai déjà remercié d'avoir fait gagner Saint-Etienne 3-0 contre Nantes. Merci Lionel. Nous on se retrouve demain à 18h. Bonne soirée à tous et toutes. À l'écoute d'Europe 1.
À demain, Philippe.
À demain, Marlène.